d'accord et restons zen.
Si ça te plaît pas, tu peux aller te faire foutre, pauvre truffe.
Je vous emmerde. Je rentre à ma maison.
Tu me prends le cœur.
Ça, c'est un couteau.
Tu peux lui faire bobo.
Tu aimes les films sur les gladiateurs?
That's what she said.
Yippie-ki-yay, pauvre con.
Considère ça comme un divorce.
Rambo, c'est une pédale.
Engagement. Et bienvenue dans ce nouvel épisode de la rentrée des bières narratives. Moi, je suis Greg du site www.thebeerlantern.com qui vous parle de bière, mais pas que. Aussi de l'histoire de la bière, du milieu de la bière, etc. depuis une dizaine d'années maintenant. À ma droite se trouve Brice, alias Grandtozer, notre technicien taciturne de l'extrême.
Bonjour.
Et face à moi se trouve Eric, alias lesartsnarratifs.com.
Salut.
Salut. et donc, aujourd'hui, les amis, Eric, d'ailleurs, tu n'as pas présenté ton blog, je m'aperçois. Tu hérites des blogs des arts narratifs.
Je suis les arts narratifs. Et le oui. blog qui cause globalement de tout ce qui peut raconter une histoire, BD, séries, films, romans, mais il n'en parle qu'une fois par an, à Noël. C'est un peu le principe chelou de ça. Non, blague à part, ce site parle de beaucoup de choses, mais je n'ai pas le temps de l'alimenter. Mais bon, un jour, je suis sûr que je pourrais faire un article sur, je ne sais pas moi, les frères Karamazov, leur vie, leur œuvre et leur lien avec la fabrication des métiers à tisser ouzbek.
Exactement. Et Karamazov, qui est un nom de brasserie également.
Aucun rapport, ils sont fait unique.
Voilà, aucun rapport. Mais j'ai pas réussi à en avoir pour l'épisode du jour. Aujourd'hui, on va repartir sur Dijon pour parler bière avec nos amis de chez 90 BPM, justement, qui, rappelons-le, nous avaient envoyé un tas de bonnes bières pour le podcast. On a déjà fait des bières avec eux, notamment. Une des dernières, c'était la Potion Magique avec Astérix et une qu'on va faire un jour ou l'autre, ça s'appelle la Battlestar Galaxytra.
Plutôt l'autre qu'un jour, mais ok.
Exactement. Et donc aujourd'hui, on a une bière pour l'épisode du jour qui nous rappelle un film cultissime qui s'appelle Mazout, ne pas se jeter dedans. Alors, ouais. Qui a la ref?
Alors avec Mazout, j'hésite hein, quand même. Je peux parler d'un fanzine rock breton du même nom qui a vécu de 2008 à 2011. Oui, Google et DuckDuckGo m'ont aidé sur ce coup-là. J'aurais pu parler aussi de Metallica. Oui, ils ont bien une chanson nommée Fuel.
Oui, Give Me Fuel.
Donc ça pourrait coller, non? Bon, ok, il aurait fallu renommer le podcast en Les Bières Auditives, et c'est encore plus chelou comme nom. Oui, je dis chelou, parce que c'est Lou Chamberlain et que j'ai une vibe années 90 aujourd'hui.
C'est vrai.
On va y venir. J'aurais pu parler aussi de Microbes et Gasoil. Hein, ouais. Gasoil, Mazout, on n'est pas trop mal, non?
Oui. On n'est pas trop mal du tout, même.
Voilà, le film de Michel Gondry avec Audrey Tautou sorti en 2015 où deux ados se fabriquent une voiture, guillemets avec les doigts, pas du tout, radiophonique, podcastique, auditif, bref, d'une voiture à l'aide d'un moteur de tondeuse et quelques planches pour esquiver les grandes vacances d'été dans leurs familles respectives. D'ailleurs, au passage, pour ceux qui ne sauraient pas qui est Michel Gondry, par le plus grand hasard, c'est un réalisateur très éclectique et au style très, enfin plutôt onirique en général, qui a réalisé L'écume des jours, Soyez sympa, rembobiné.
Oh.
The Green Hornet ou encore Eternal Sunshine of the Spotless Mind, très mais bon. Également de nombreux clips musicaux comme Around the World de Daft Punk, Je danse le Mia d'IAM, Army of Me de Björk, Ride de The Vines ou encore Fell in Love with a Girl des White Stripes. Mais bon, bref, je m'égare de Lyon. Hein.
Deux minutes d'arrêt.
Wow, je m'égare de Lyon par Dieu, ou Marseille et Saint-Charles. Au final, ce qui sera au menu, c'est. On va parler de les nuls.
Les nuls. Et avant d'entamer notre histoire des nuls, parce que je pense qu'on a plein de choses à dire sur ça, on va revenir un petit peu sur nos amis de 90 BPM qui nous sponsorisent. Et je vous invite d'ailleurs, ouais. Si vous êtes une brasserie...
Ils sont super sympas.
Ils sont super sympas. Et si vous êtes une Merci. Brasserie comme 90 BPM, n'hésitez pas à le faire. On passera vos bières et on parlera à vous avec grand plaisir.
Ou au pire, on a un compte Tipeee.
Voilà.
Si vous vous alimentez pas en bière, vous pouvez au moins nous payer l'hébergement du site. Ça peut marcher.
C'est vrai.
Le Tipeee, c'est quoi l'adresse ? C'est Tipeee, machin,
Tipeee,
on cherche les bières narratives dessus.
Vous cherchez voilà. Les bières narratives. Okay. Voilà. Le lien est de toute façon sur notre site internet, www.lesbièresnarratives.com, qui, au moment où est enregistré cet épisode et au moment où, plutôt, vous l'écoutez, ce sera à jour. Le site n'est pas à jour, je vais le faire.
Sauf si un voyage dans le temps nous fait qu'on aura tort maintenant. Mais bon, c'est pas.
Voilà. Parce qu'exceptionnellement, on prend de l'avance. On est en fin juillet au moment où on enregistre cet épisode. Pour que vous puissiez avoir à la rentrée quelque chose.
Voilà.
Parce qu'on avait un peu peur avec les congés et le boulot de ne pas pouvoir être à l'heure. Donc du coup, vous aurez un site...
On est suffisamment râleur, mais à l'heure.
Voilà. Et vous aurez un site du coup qui sera complet au moment où vous écouterez ce nouvel épisode. Pour revenir sur nos camarades de 90 BPM, donc pour l'histoire de la brasserie, on en avait déjà parlé effectivement il y a un moment de cela. Cette fameuse étiquette avec un ours blanc qui est l'ours pompon, qui est une sculpture de pompon, je crois. Le nom de famille du gars, c'est Pompon, mais le prénom m'échappe. Sur Dijon, donc à la base, en fait, 90 PM, ce sont deux copains, c'est Léo et Victor.
C'est plus simple que les prénoms de la brasserie
d'avant, oui. Qui ont décidé de se lancer dans l'aventure brassicole, comme plein de gens, comme moi, au moment où vous écoutez ce podcast. Je me suis lancé aussi dans une brasserie avec Antoine. Donc, en général, c'est une histoire d'amis-eux, hein, qui se lance dans la...
Amis-eux, c'est Antoine.
D'amis-eux, voilà, c'est Antoine. Antoine est limite ma femme, parce que je le vois plus que la propre mienne. Quoique maintenant, avec la brasserie, j'arrive enfin à avoir un rythme de vie où je vois plus ma compagne que lui. Mais j'ai eu deux années où je ne voyais que lui, donc oui, c'est
bon,
rigolo.
Il a la barbe aussi longue que les cheveux de ta femme.
C'est vrai, c'est vrai. Exactement. si tu prends Antoine que tu le mets à l'envers, bah, du coup, il y a la même masse capillaire. Oui, c'est très bizarre.
Sans vous imaginer.
Non, mais en plus, je peux dire ce que je veux parce qu'Antoine n'écoute aucun podcast et il n'aime pas les podcasts.
Ouais, fait comme nous, quoi.
Je peux dire d'Antoine que c'est un con, il l'entendra jamais, en fait. Tu vois.
Mais je suis sûr qu'il y a des cons qui vont le répéter.
Évidemment, évidemment. Mais il sait que je l'aime. Mais pour revenir à nos amis.
Moi, je l'aime d'humour.
Je l'aime d'humour. Pour revenir à nos amis donc, de 90 BPM, donc. Léo et Victor, j'ai perdu le fil parce que j'étais en train de faire plusieurs choses en même temps parce que je cherche une petite
pendant
info
ce temps, nous on est en train de se servir la bière qu'on n'avait pas pensé à boire la dernière fois.
Oui, durant notre épisode des Gardiens de la Galaxie, parce qu'on a avancé et on avait oublié de déguster celle-ci. Donc Eric, qu'on aille sur une Yeasty Boys. Tiens, je passe la canette pour que je cherche une petite info pour compléter.
La Yeasty Boys de la Wizard Motor, une American IPA. Qui titre à 6,5 d'alcool. Elle sent elle plutôt sent orange, bon. plutôt agrume, peut-être même un peu, enfin vraiment agrume jus de fruit quoi.
Ouais.
Attends, je vais la goûter du coup. J'ai enfin trouvé mon info.
Elle a une belle mousse.
Oh, elle sent très bon.
Oui.
Une collab en fait. Hein.
C'est une collab entre qui et qui, du coup
je suis en train de chercher. C'est une... c'est une collab.
Oh, il y a une belle amertume. Hein. C'est bon, ça.
C'est une collab. Je pensais que c'était
ça passe
collab,
bien.
Mais
j'aime bien.
Je ne suis pas sûr.
Ah, tu n'es plus sûr.
Il y a marqué « Brewed with our friends at Utopian Brewing ».
Ouais.
Dans le Devon. Mais with our friends, est-ce que c'est.
C'est que les gens ils ont brassé avec leurs potes.
Voilà, c'est ce que j'ai eu un petit doute d'un coup.
L'étiquette, du coup, alors pourquoi on avait fait référence, je l'ai dit dans l'épisode précédent, mais pourquoi, du coup, si vous écoutez cet épisode et vous n'avez pas écouté notre épisode qu'il faut écouter sur les Gardiens de la Galaxie, les Yeasty Boys, c'est parce qu'en fait, dans les Gardiens de la Galaxie 3, James Gunn, qui est un aficionado de bonne musique, a fait un plan séquence génialissime avec No Sleep Till Brooklyn des Beastie Boys. Et donc, du coup, comme on l'avait, on s'est dit, bah tiens, ça peut être intéressant. Et sur cette canette, on s'aperçoit qu'il y a K2000 conduit par David Bowie sur une bière qui s'appelle les Yeasty Boys. Donc, voilà,
Wizard Motors. Non, je pense que Yeasty Boys, c'est la brasserie, en fait.
Tu crois, c'est Yeasty Boys la brasserie?
Et ben. Je crois, mais ça serait logique de. Attends, je fais une petite recherche parce que le site c'est yeastyboys.quelque chose.
Co.nz. C'est peut-être ça. Ah ouais, pendant que tu cherches du coup cette info là, on est en mode info là.
On fait plein de choses en même temps.
C'est une rédaction.
On est super fort aujourd'hui.
On surveille l'arrivée de nos pizzas. voilà. Ouais. Je reviens dans
Nouvelle-Zélande, hein, Yeasty Boys.
Yeasty Boys, Nouvelle-Zélande. Et ils ont brassé dans le Devon en Angleterre. Et ils ont un site anglais aussi. Je pense que ça vient de là, c'est vraiment une collab. Quoi.
On saluera le jeu de mots. Alors pour ceux qui ne connaissent, qui ne sont pas très anglophones, yeast en anglais, ça veut dire levure, et donc Yeasty Boys, c'est un jeu de mots. Mais en français, ça ne se traduit pas du tout. Ça aurait fait les Levury Boys, et donc c'était nul.
C'est très bizarre. Voilà. Évidemment, cette bière-là qu'on a là en main, c'était une série limitée, vu que c'était une collab,
ouais.
Et ne sort plus. Mais par contre, ils ont leur propre gamme classique sur le site disponible.
Ouais, ouais.
Et ils ont une spéciale, une Tropical Brainstorm Easy Pale Ale en ce moment. Alors, je ne sais pas s'ils livrent en France, hein, très honnêtement. Mais, mais non, ils ont aussi une autre collab en ce moment, la Safe Surfer, une New Zealand Pilsner avec Loch Lomond Brewery.
Loch Lomond qui est un loch en Écosse.
Tout à fait. Donc
peut-être une collab écossaise.
Je pense qu'ils ont pas mal de liens avec les Britanniques.
Ouais.
Sachant que celle qu'on boit la Wizard Motors du coup.
Oui, du coup.
On a bien préparé ce truc là quand même.
pour être transparent avec vous, on enchaîne en fait les épisodes. Donc du coup, le premier nous a fatigués, je pense qu'on arrive au deuxième, et on n'a pas encore fait de pause.
Mais restez, parce qu'on va être en forme.
Ça va être cool, il y a les nuls.
Ça va être cool, ça va être nul.
Mais oui.
Pardon. Bref, je te laisse reparler.
Écoutez ce podcast de Les Bières Narratives. Donc Léo et Victor qui se lancent dans l'aventure brassicole. Donc une brasserie qui a connu un franc succès depuis son arrivée. Puissant développement qui se fait notamment par le fait qu'ils aient des recettes très sympas, qu'ils soient des gens très très cool et qu'ils aient des très belles références sans pour autant finalement avoir des canettes qui visuellement en fait vont vous péter à la gueule avec des trucs trop bien faits. Au final, des canettes qui sont très simples avec juste un texte marqué en gros en gras avec le nom du truc, le logo, et de temps en temps une incursion de Half par exemple pour l'autre Half,
oui,
ou de quelques autres trucs. Là, il y a eu quelques nouveautés dans lesquelles ils ont incrusté quelques petits éléments visuels, mais c'est très léger. Mais voilà, c'est des gars que j'adore, parce que dès que j'ai croisé en festoche, ils sont super sympas. Dès qu'on se parle sur les réseaux et tout, ils sont super gentils. Et leurs bières sont vraiment, vraiment excellentes. D'ailleurs, ça fait penser que ça fait longtemps que je n'en ai pas eu au bar, parce que ça fait quelques temps que je n'en ai pas eu dans les distributeurs avec qui je travaille, parce que je fais tourner tous les distributeurs avec mon bar. Et c'est vrai que pour l'instant, je pense que dans ma tournée de distrib, j'ai toujours pas encore eu 90 PM. Donc, je pense que je vais résoudre ce problème d'ici la fin de l'année. Et donc voilà, ils ont des recettes quand même très cool qu'on a déjà testées ici. Et donc, par exemple, en ce moment, donc là, au moment où j'écris ces lignes, où je lis ces lignes, on est le 30 juillet, mais je pense qu'il y en aura peut-être des nouvelles d'entre temps. Ils ont par exemple fait une bière qui s'appelle La Dernier Dinosaure.
Denver.
Voilà. Ils ont fait une West Coast IPA, c'est une West Coast IPA qu'ils ont fait en collab avec Nautil, voilà, cette dernier jour, Nautil, qui ont fait la Green Fingers en collab avec la Petite Messe dans l'épisode précédent, la Green Fingers avec le Groot en houblon. Ils ont aussi fait la cinquième Elemang, très drôle, la Singe du Futur, et quelques classiques qu'on a déjà cités, comme Potion Magique, Alphonse Brown, la Haute Relaf, la 7 à la Maison, la Trilogie du Samedi, la Balatestar Galaxitra, etc., etc. Donc voilà, une brasserie dont je m'éclate à suivre les aventures. Et donc l'info que je cherchais, parce que je voulais ajouter ça, parce que je trouvais que c'était quand même important, parce que j'ai découvert cette personne-là grâce à 90 BPM. Il faut savoir qu'un de nos deux compères est le conjoint d'une jeune femme qui s'appelle Alexandra Berry, qui a créé un truc qui s'appelle French Beers. Alors, je vous en dirai plus tout à l'heure, mais qui est en fait destiné à aider les brasseries françaises à se vendre à l'étranger. Donc c'est plutôt cool. Alors Alexandra est anglaise, hein, elle parle un français impeccable, mais elle est anglaise, elle est britannique. Et elle est autrice en fait à la base, moi je l'ai connue, et donc elle a deux ouvrages que je vous conseille. Du coup, on n'est pas au roco, mais.
Elle est autiste.
Elle est autiste.
Désolé. Hein.
Elle est autiste et elle lit.
On connaît Fusnik là aussi.
Elle est autiste et elle lit Eric. Ça
elle
fait...
est autiste reading, voilà. Évidemment, c'est ma blague de cœur.
Et Alexandra a écrit un premier livre qui s'appelle Craft Révolution avec le R entre parenthèses et artisanat au service de la bière, qui est paru en 2021 aux éditions Baudelaire. Elle a fait aussi De la terre à la bannière, l'expression du terroir dans le verre, toujours aux éditions Baudelaire. On peut retrouver ses bouquins donc un peu partout dans vos librairies ou sur son site. Et voilà, donc elle fait des conférences et tout ça. Et donc ces deux bouquins sont hyper intéressants si vous avez envie d'en apprendre plus sur le milieu de la bière. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. Vu qu'on avait déjà présenté les loulous de 90BPM depuis quelques épisodes, je me suis dit que c'était intéressant de faire un peu de promo pour Alexandra, qui est quelqu'un de très sympa. Et maintenant que j'en ai fini avec la bière, j'espère que j'ai pas été trop nul, lol. Et Eric, tu vas nous parler avec Brise, donc de trois personnes, enfin quatre, puis trois malheureusement, qui ont bercé notre avance à nous, vieux quadras qui arrivons sur nos 50 dans quelques dizaines d'années, j'espère.
Enfin, quelques dizaines d'années, si t'arrives dans à 50 ans, dans quelques dizaines d'années, c'est très bizarre.
En fait, j'ai fêté mes 38 ans il y a pas longtemps. Donc ça me fait chier, je lui.
Alors, moi je vais remonter à mon enfance lointaine, à l'époque des Cro-Magnon.
1882, comme je l'ai dit dans l'épisode précédent, qui était l'avènement des bières.
J'avais 6 ans. Oui, j'avais 6 ans quand les nuls sont apparus sur la chaîne de télévision Canal+. Oui, à l'époque, on qualifiait Canal+ de chaîne de télé et non pas de service de streaming. Un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître.
Et nous, on avait Antenne 2, messieurs dames.
Voilà, et FR3. C'était déjà payant, certes, mais c'était une chaîne au profil particulier. Son aspect chaîne à péage façon HBO français, déjà. Ses films de cinéma en avant-première, et pas que ceux du samedi soir à une époque pré-internet. Un bande de petits coquins. Ses exclus sportives, etc., etc. La chaîne existait déjà depuis 1984, quand Alain de Greff arrive à trouver un ton différenciant à Canal+, qui n'était au départ qu'une chaîne de plus, avec le top 50 de Marc Toesca.
Oh, tintin.
Une météo humoristique signée Alain Chabat, Michel Denisot à la matinale, et enfin une courte émission animée par Coluche, Coluche 1. 1, faux. 1, le chiffre est faux comme c'est faux. Écourté entre autres par le décès de l'humoriste en juin 1986. Triple anecdote Camelox au passage, vous saviez qu'une variété de roses, un astéroïde et un fossile d'ammonite du Crétacé ont été nommés en l'honneur de Coluche. Bon, oh. Voilà, vous savez.
Tiens.
Ce ton, Alain Greff le trouve en installant sur la grille des programmes à la rentrée 1987, deux programmes emblématiques de l'histoire de la chaîne. Nulle part ailleurs, tout d'abord, talk show qui aura duré 14 ans, dont 10 animés par Philippe Gildas, et son contrepoids humoristique, Objectif Nul, qui sera remplacé l'année suivante par un troisième programme des plus emblématiques du canal, Les Guignols de l'Info.
Ah, Les Guignols de l'Info.
Donc, comme ça a été évoqué, Alain Chabat travaille déjà à Canal+, donc à la météo, depuis le début, et il rêve d'un Saturday Night Live à la française dès le départ. Il est pote avec un assistant de production qui bosse sur les bandes annonces de la chaîne, qui répond au doux nom de Dominique Farrugia. Leur amitié naît d'un humour partagé, ou plutôt d'un humour partagé, de l'humour absurde, que l'on retrouve autrement chez les bien connus Monty Python ou encore Outre-Atlantique dans les films de Zaz. Les Zaz, donc. David Zucker, Jim Abraham et Jerry Zucker. Leur initiale faisant Zaz. Les Zaz en français, c'est tout ce qui était les y a-t-il un pilote dans l'avion, y a-t-il un flic pour sauver la reine, etc.
Foncez voir ces films. Leurs héritiers ont été les Scary Movies.
Top Secret. Les Scary Movies, ouais, effectivement.
Pas un peu inégaux, mais qui ont été un peu dans cette trame-là.
Je crois qu'il y en a un qui avait été réalisé par
les
Az. Les Az.
Ouais, je crois que c'est le 3, avec Charlie Sheen, Leslie Nielsen,
possible,
du coup,
ouais.
Qui revenait. Oui. Voilà. On voyait la patte Zaz complètement, d'ailleurs.
Donc, du coup, hippie, la patte Zaz. Toute ressemblance avec une chanteuse.
C'est moi, l'amour, vous savez. Du coup, ces deux, Alain Chabat et Dominique Farrugia, se retrouvent avec l'obligation de bosser ensemble comme co-auteurs sur un projet d'émission pour un duo qui a été débauché par Alain de Greff dans une émission nommée Bzzz sur FR3 Méditerranée, ouais, le Sud en pouvoir. Le duo en question, Chantal Lobby et Bruno Carrette. Le premier projet qui durera de février à avril 87, Objectif Nul. C'est une série de science-fiction, de parodie de Star Trek avec des invités stars de l'époque, Richard Gottener, Dick Rivers, Maître Capello. Durera 50 épisodes et leur permettra d'obtenir un set d'or de la meilleure émission d'humour. Les sets d'or, c'est les Emmy Awards à la française, sponsorisés par Télé 7 Jours. Ça n'existe plus vraiment maintenant.
C'était les 7 jours.
Donc pour la saison 87-88, les nuls lancent le JTN, le journal télévisé nul. Parodie assez novatrice pour l'époque des journaux télévisés.
Ça tu es sûr des journaux télévisés, c'est...
Oui. Tu es sûr?
Par contre, on dit des chevals télévisés.
Ah, des chevals. Ah, oui, voilà, oui. Je savais bien qu'il y en avait un des deux qui était...
Ah, ils ont renommé la voiture de l'époque, la deux chevals.
La deux chevals.
La deux chevals. Du coup, cette parodie qui a été tous les procédés de cette émission ont été repris plus tard par leurs successeurs. Donc, on a le détournement de l'image d'Angroland, les faux invités en plateau par avec Antoine Decoine ou encore les Robins des Bois, les fausses pubs et parodies des séries qu'on a pu voir après avec KDO. Le Quatuor prend une année sabbatique pour la saison 88-89. Mais produit deux spéciaux, un le soir du 26 novembre 1988 avec TVN.
J'aime bien être précis dans mes conducteurs.
595 parodies de programmes d'une journée de chaîne de TV. Et la nuit la plus nulle, le 18 mars 1989, où seront notamment diffusées les références et influences principales des nuls entrecoupées de sketchs.
Et je vais vous diffuser un extrait du coup du journal des nuls. D'où le bruit que vous avez entendu, c'est YouTube qui s'est déclenché en même temps.
Le journal de l'émission présenté par Pénélope Solette et Maurice Chevalier avec notre partenaire CNN, sponsor officiel de la guerre de Le Golf.
Bonsoir. En période de guerre, nous autres journalistes sommes plutôt contents dans la mesure où nous pouvons vous tenir informés de quelque chose. Mais s'il ne se passe rien, nous trouverons quand même quelque chose à dire puisque parler à la télé est notre métier, n'est-ce pas Pénélope ?
Tu l'as dit, Bouffi.
Passons tout de suite la semaine en revue.
Dimanche, la guerre.
Lundi, la guerre.
Mardi, la guerre.
Mercredi, la guerre.
Jeudi, la guerre.
Vendredi, la guerre.
Samedi, la guerre.
Bon, on a parlé de la guerre.
Passons maintenant au dimanche.
Dimanche, Demis Roussos s'est acheté une chemise avec les inscriptions qui changent. C'est tout nouveau, ça vient de sortir. C'est beau.
Regardez ce pickpocket comme il est habile. C'est en Lituanie, on n'en parle pas assez. Pourtant, il s'en passe des choses là-bas. Alors une fois qu'il a piqué le portefeuille, il rafle la pancarte. Ni vu, ni connu, je t'embrouille.
Enfin...
Voilà, donc c'était des trucs visuels, mais effectivement, comme tu dis, c'était la grande époque ensuite qui a suivi avec les Groslandes, les Guignols et tout. Mais je crois qu'il n'y a personne qui a fait comme eux hein, après. Hein, c'était vraiment, vraiment génial. Quoi. Donc,
heureusement qu'ils n'ont pas fait exactement comme eux, ça aurait été triste.
Oui, mais il y en a qui...
Moi, j'avais bien aimé les Robins des Bois, après coup.
Les Robins des Bois étaient cool, ouais. Ça, c'est, après, c'est... Bon, après, Canal Plus a toujours été un vivier pour des trucs très qualitatifs, tu vois. Même les plus récents, je crois que c'était Bref, avec Ian Conengy, où là, c'était aussi bien... C'est vrai que Canal a quand même été... Enfin, nous, on est des quadras, hein, bientôt, hein, dans deux ans, mais vous l'êtes déjà. Hop, la balle perdue. mais je veux dire, c'est vrai que nous, on a grandi avec l'esprit Canal, en fait, avec tous ces humoristes, toutes ces blagues, qui aujourd'hui, en fait, c'est devenu différent. Maintenant, tu as les comédie clubs, les trucs, ça a beaucoup, beaucoup pris, en fait, le monde de l'humour, en fait. Et c'est vrai que bah, nous... On a été bercé aux conneries des nuls, à Decoine et Garcia, au Guignol de l'info, Monsieur Manhattan, toutes ces conneries quoi. Donc voilà, je te laisse poursuivre, Eric.
Ben,
du coup, on était en 1989, il me semble.
La rentrée 89, les nuls lancent ABC des nuls, qui durera 61 épisodes. Je dis que j'aimais être précis. Et qui propose des sketchs illustrés par de fausses définitions du dictionnaire. Ça ressemble un peu au mot d'Eric
Ramzy, ouais. Ne voyons pas d'autres explications.
Malheureusement, l'émission explose en plein vol avec la mort brutale de Bruno Carrette, le fameux événement tragique dont on parlait en intro, le 8 décembre 89, après 2 mois de maladie.
On sait de quoi il est mort, Carrette ?
C'était de maladie.
On sait... Non, ouais, de maladie. Non, ça, je sais pas.
Il s'est petit suicidé.
En fait, a priori, ils étaient partis, je sais plus, dans un pays du Maghreb, je crois.
Ouais.
Il a développé là-bas une sorte d'infection mais après il n'en a jamais guéri en fait. Alors, a priori c'était plutôt une infection qui se qui était favorisé par le sida. Donc, est-ce que.
Est-ce qu'il avait le virus
là, par contre, j'ai pas assez creusé pour. Ouais. Mais voilà ce qu'il se disait sur Wikipédia. Quoi.
D'accord. Okay. Non, parce que c'est vrai que je me suis jamais su de quoi était décédé Bruno Carrette.
Ouais, il faut comprendre que c'est un réel choc pour tous ses proches et pour Canal+, même, au point que 3 jours après sa mort, nulle part ailleurs, est entièrement consacré à la carrière de l'artiste des nuls. Au film de Louis Malle, du film de Louis Malle Milo en mai, qu'il avait achevé peu de temps avant son décès. En gros, tout ce qu'il a fait pour Canal, son au théâtre, même son travail sur Affaire 3 Méditerranée, le dernier film qui venait de tourner.
Ouais,
et c'est grosso modo Philippe Gildas qui déroulait toute sa filmo, enfin tout son truc, pendant toute une émission spéciale de Nuit par ailleurs. A priori, on sentait vraiment le coup dur, quoi.
Contrairement à ce qui se passe maintenant, je ne sais plus qui c'est qui a repris Canal, mais
Bolloré.
C'est Bolloré. Donc voilà, Bolloré, c'est Hanouna et compagnie, hein, donc voilà. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était une vraie. Tu voyais qu'il y avait une vraie communauté Canal, famille Canal, qui était là, donc ça
peut-être
se voyait.
Peut-être que ils avaient le même dealer. Hein. Mais
c'est pas probable, j'en sais rien.
Je ne dis rien, c'est une blague. Arrêtez. sans Pierre Lescure et Alain de Greffe pour les remotiver, le groupe se serait sans doute séparé. Dès 89. Du coup, Histoire de la télévision sera à l'écran de mars à juin 1990 comme première tentative de se rapprocher du SNL avec une émission totalement en direct avant de revenir en octobre 1990 avec une formule plus proche de leurs précédentes émissions avec Les Nuls, l'émission qui sera elle aussi récompensée d'un set d'or. Oui, toujours sponsorisé par TSE Jour. Toutefois, épuisés par ce rythme, les membres de Les Nuls décide carrément d'arrêter la télé le 28 mars 1992 au sommet de leur gloire, à quelques apparitions ponctuelles près. Ce qui veut dire quand même que c'est aussi peut-être sans doute pour ça que les nuls ont autant marqué leur génération.
Quoi. Et oui. Ils sont partis avant le déclin.
Exactement.
S'ils ont eu un déclin.
Du coup, ils vont poursuivre leur carrière sur le grand écran, mais pas de suite comme vous l'imaginez. En effet, Alain Chabat et Dominique Farrugia vont s'occuper des dialogues français du doublage d'une comédie américaine sortie aux États-Unis pour la Saint-Valentin 1992, mais qui ne trouvera le chemin des salles obscures françaises que le 28 octobre 1992.
Mon premier DVD ever.
Et force est de constater qu'à mon avis, leur travail a grandement participé au succès français, culte on va dire, de ce film, basé sur un sketch du SNL. Je veux bien sûr parler de Wayne's World.
Eh oui.
En effet, sur une quinzaine de films issus de sketch du SNL sortis en une trentaine d'années, seuls Wayne's World et The Blues Brothers ont réellement connu le succès en France. Mais bien entendu, la véritable aventure de Les Nuls sur grand écran, ce sera en 1994 avec un film nommé, je prends ma respiration, La Cité de la Peur, une comédie familiale. Car oui, c'est le vrai titre, bordel. Une preuve en plus du fait que ce soit écrit sur l'affiche, eh ben, c'est que le titre anglais, c'est Fear City, a Family Style Comedy.
Donc voici la bande-annonce avant que Brice poursuive sur le film.
Le Festival de Cannes. L'événement médiatique que le monde entier nous envie.
Alors vous allez être content parce que l'année dernière, c'est Nicoletta qui avait votre chambre.
Mais le monde du cinéma est parfois une jungle bien cruelle.
Aïe. Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde.
Jusqu'à où on peut-on aller pour promotionniser un film? Jusqu'à le meurtre? Jusqu'à où? Chantal Lobby, Dominique Farrugia, Alain Chabat, mais aussi de vrais acteurs comme Gérard Darmon sont dans La Cité de la Peur, une comédie familiale. Le film de Les Nuls vous enchantera par ses dialogues éblouississants.
C'est joli, ça c'est quoi? C'est du cachemire?
C'est du coton.
Ma première voiture c'était une Peugeot.
Parce que moi, je suis pas vraiment acteur.
Et ces images le chatoyantes.
Tu m'en fais un bout de pomme de terre sur. Oh.
Si vous avez aimé Jurassic Park, La Leçon de Piano et Le Fugitif, eh ben nous aussi on a bien aimé. La Cité de la Peur, le film de Les Nuls, sortis-le.
Vous voulez un whisky?
Ou juste un doigt.
Vous voulez pas un whisky d'abord?
Voilà.
Oui, donc La Cité de la Peur, une comédie familiale, est donc écrite par Les Nuls. Mais c'est Alain Berberian, une vieille connaissance du groupe qui réalisait déjà les fausses pubs de leurs différentes émissions, qui s'occupera de réaliser le film. Depuis, le réalisateur n'a pas été très prolixe, mais celui qui est derrière Le Boulet, avec Gérard Lanvin et Benoît Poulvorde, ou encore L'Enquête aux Corses, avec Christian Clavier et Jean Reno. Il est malheureusement décédé en 2017, à l'âge de 64 ans. C'est pas très vieux. L'histoire du film se déroule dans les années 90, en plein Festival de Cannes. Les projectionnistes d'un très mauvais film d'horreur, pastiche d'un série Z, nommé Red is Dead, se font assassiner les uns après les autres par un meurtrier armé d'une faucille et d'un marteau, comme dans le film. L'attachée de presse, Odile Deray, chargée de promouvoir le long métrage, est interprétée par Chantal Lobby, voit en ces meurtres une opportunité pour la notoriété du film. Elle fait donc venir l'acteur principal, Simon Jérémy, joué par Dominique Farrugia, et embauche un garde du corps nommé Serge Karamazov, interprété par Alain Chabat. Pendant ce temps-là, le commissaire Bialès, Gérard Darmon, est chargé d'enquêter sur ces meurtres.
Et en réalité, je me suis rendu compte, en rédigeant ce conducteur, qu'il est difficile de réellement parler de La Cité de la Peur, une comédie familiale, car déjà il a un titre long et relou, mais surtout que son humour réside en une telle succession d'absurdes, de références diverses et variées, comme des références à Terminator, Pretty Woman, etc., et de caméos improbables, que c'est un peu indescriptible. Quoique je viens d'essayer de le décrire. Bon, bref. Ce qui est certain, c'est que les répliques sont restées dans la mémoire de tous ceux qui ont vu le film dans les années 90-2000, et sont même reprises dans certains programmes, comme Bref, justement, on en parlait tout à l'heure, avec Kian Kojandi dans le...
Tout à fait.
Dans, bref, j'ai grandi dans les années 90, d'ailleurs, oui. Je crois. Et il s'était également excellemment repris dans le film Play avec Max Boublil. C'est un vrai marqueur générationnel.
Je n'ai pas vu Play avec Max Boublil.
Il est très bien.
Mais ça me donne envie de voir Play avec Max Boublil.
Ben, franchement, c'est un très bon film. D'ailleurs, Alain Chabat joue le père du personnage de Max Boublil, justement, dans ce film. C'est-à-dire que le film raconte en fait toute la jeunesse d'un gars,
ouais.
Mais filé à travers son caméscope d'enfant ou son smartphone, etc. Et franchement, ça fait un peu comédie romantique sur la fin, qu'on va dire.
Ouais,
mais,
ouais.
Mais franchement, c'est bien, bien fun, quoi.
Tu m'en avais parlé de ce film, ouais.
Donc, désolé. Allez, on fait les coulisses. On ne sait pas si on le coupera ou pas, mais on fait les coulisses
c'est
quand
très
même.
Drôle.
La pizza vient d'arriver. Bah oui, on ose nourrir. Nous ne sommes pas que des êtres de podcast. Nous sommes aussi des êtres humains. Et du coup, comme on enregistre ça dans mon magasin.
Et on a des casques.
On a quelqu'un qui devait toquer à la porte plutôt que nous appeler. Je surveille le téléphone comme
et oui,
possible.
Oui, j'ai entendu toquer. Du coup, j'ai fait un grand signe. Je crois que j'ai entendu toquer. Brice est parti. Sauf que du coup, à l'entrée du magasin d'Eric, vous avez la fameuse sonnette. Et donc, pendant que Eric parle, en fait, ils doivent être en train de prendre les pizzas. Et ça n'arrête pas de sonner, en fait. Ça nous déroute complètement. C'est très drôle.
Je pense qu'on va peut-être le garder.
Oh oui, on va le garder parce que ça nous fait
tellement
marrer.
Drôle. Bon, bref. Donc, les coulisses, c'est qu'on va manger de la pizza ce soir. Hein. Bon, bref. Hein.
Exactement.
Un soir de juillet 2023, ils mangèrent de la pizza en parlant de l'été.
30 juillet. Ils mangèrent de la pizza.
Donc ouais voilà donc et on ne sait pas est-ce que Brice va arriver jusqu'à nous.
Il est arrivé
avec des pizzas. C'est génial et on n'a pas cessé d'enregistrer parce qu'on aime la magie du direct.
Et on a entendu les bulung bulung bulung
tout le long.
Ah oui, putain, ça m'a voilà. Fou ça.
Voilà, désolé. Voilà.
Bref, bon, après cet achèvement de cinématographique de La Cité de la Peur, une comédie familiale, les nuls tout en restant proches n'ont plus guère travaillé en tant que groupe. En fait, les réalisations signées d'Alain Chabat que sont Didier en 1997, l'énorme succès Astérix et Obélix Mission Cléopâtre en 2002, qui vient de ressortir,
que je n'ai toujours pas revu,
remasterisé au cinéma, c'est là à l'heure où on enregistre, hein, en juillet, et a pris de 5€ la place. Vraiment, en
c'est
plus,
clair, ça vaut le coup.
Très sympa, quoi. Et suivi de l'échec en 2004, justement avec le Romain Desbois. Le film s'est un peu refait une santé avec une certaine côté culte,
ouais,
humoristique,
ouais.
Depuis.
C'est vrai que maintenant il y a ça.
Exactement, il va faire tout noir.
Ta gueule.
Bref, au cast. Et d'ailleurs, avec les Romain Desbois, dans ce film, ils font intervenir de près ou de loin tous ses compères de, au gré de caméo, de promo. Sans parler du fameux Burger Quiz, d'abord sur Canal+ en 2001, puis sur TMC en 2018.
Incroyable.
Où, où défilent même, au sens large, toutes les écuries Canal+, de l'époque Les Skieurs de Greffe. Bon, malheureusement, comme on le disait tout à l'heure, cette époque est bien révolue. On peut dire que c'est sans doute Alain Chabat qui a le mieux réussi sa reconversion, toujours avec des guillemets avec les doigts, parce que sinon c'est moins drôle, après l'aventure Les Nuls, car même si Dominique Farrugia a lancé avec succès la chaîne Comédie, qui a connu son heure de gloire et a pu faire connaître des troupes comme Les Robins du Bois, justement, et, mais qui a surtout eu de gros soucis de santé, Espérance en plaques notamment, et les films qu'il a commis, parce que Delphine 1, Yvan 0, c'est quand même pas... Hein, bref.
Le palmarès est... Par Thierry Roland et Jean-Michel Larqué, quand même. Hein.
Le palmarès est malheureusement moins reluisant. De son côté, Chantal Lobby a été un peu plus discrète, mais a quand même scénarisé le premier Létuche, je l'ai découvert en... Hein, et capitalise désormais avec la série de comédies Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu.
Ah oui.
Donc, j'ai réussi à ne pas voir.
Oh, j'en ai vu un ou deux, je crois, et je me suis arrêté là.
À la limite, sa fille Jennifer Ayash, leader du groupe Superbus, était presque plus visible qu'elle à une époque.
D'ailleurs. Mais enfin, Superbus, on ne les voit plus trop.
Non, mais maintenant, on revoit Chantal Lobby.
Voilà.
en tout cas, que cela soit à la télé ou au cinéma, ensemble ou séparément, il y a bien une chose dont la France peut s'enorgueillir, hein, c'est que l'on a eu un excellent groupe d'humoristes qui n'avait rien à envier aux Américains, même s'ils en inspiraient beaucoup. Les Nuls, c'est sans doute le nom de scène le moins adapté qui puisse exister, je pense.
Exactement. Et avant de passer à notre sujet brassicole, et je vais vous diffuser un extrait de La Cité de la Peur, les amis. Le fameux « Tu bluffes, Martoni
?» Moi, je dis qu'il bluffe.
Moi, je dis qu'il bluffe pas.
Bougez pas. Ou je la flingue.
Ne quittez pas, monsieur le préfet. Martoni.
Qui c'est ?
Jean-Paul Martoni. Petit politicien véreux, tueur d'écologistes, qui veut transformer la plage en parking. N'ayez pas peur, Odile. Je m'occupe de ça.
Stop ! N'avancez plus, Galette. Je veux un hélicoptère. Je veux que vous donniez l'ordre à vos hommes de me laisser quitter le palais sans problème. Sinon, je la flingue. Et ce coup-ci, plus de tapette pour vous sauver.
Je veux dire que monsieur est commissaire de police.
Tu bluffes, Martoni. Il bluffe.
Pas sûr. Si, si, il bluffe, là, ça se voit tout de suite. Il a pas l'air de bluffer, là, quand même.
Il bluffe là.
Moi je suis de l'avis de Bialès, il bluffe. Hein. On vote. Moi je vote et je dis il bluffe.
Ça suffit. Vous essayez de gagner du temps.
Non.
Bon, vous l'aurez voulu, hein. Je la bute.
Tu bluffes, Martoni. Ton arme n'est pas chargée. Aïe.
Yes. Je vais voter, il bluffe pas. Hein.
Peut-être qu'il bluffe, hein. Peut-être qu'il avait qu'une seule balle.
Aïe ! C'est-à-dire que là, vous êtes lourd.
Allô ? Monsieur le préfet ? Non, c'est Serge Karmazov à l'appareil, je suis le responsable de la sécurité ici. Non, voilà, on a une prise d'otage. Le commissaire Bialesque est salement blessé et une attachée de presse qui est maquillée, je vous dis pas, c'est une horreur.
Préfet, je veux un hélico dans 10 minutes, sinon je la bute !
Martoni veut un hélico dans les 10 minutes, sinon il la bute. Il dit que vous bluffez.
Dites-lui que j'ai plus de genoux.
Il dit qu'il a plus de genoux. Il dit qu'il voit pas le rapport.
Bon, ça suffit. Je compte 5, 4, 2, 1, et à 0, paf. Je lui explose la tête comme une pastèque.
Il dit 5, 4, 3, 0, et après, paf, pastèque. Je sais, c'est un peu décousu, moi je vous retranscris ça pêle-mêle aussi.
5. 4. 3. 2.
Il faudrait vous décider pour l'hélico, parce que là, il reste plus que 1.
Et donc, ça ne se verra pas, mais on vient de manger des pizzas entre-temps, après cet extrait. Donc, on va passer au sujet brassicole du jour, les amis. Et aujourd'hui, j'avais envie d'un truc qui est sympa et léger, c'est la collaboration. Alors, dit comme ça...
C'est pas très léger, voilà. Hein, comme sujet.
Justement, dit comme ça, je reconnais qu'il y a quelques années en arrière...
Ça n'a pas bonne presse.
Ça n'a pas bonne presse. Je pense notamment... Alors là, je parle des collabs en termes de collaboration, mais je pense à une conférence qui avait eu lieu au Lyon Beer Festival, je crois que c'est l'année dernière, où la conférence intitulée, il parlait de l'intérêt des collabs, donc c'est ce que je fais là. Sauf que le nom de la conf, c'était « Tous collabos ». Et, là, et oh, moi, ça m'a fait sourire, j'ai dit, bon, quand même, les gars, tu vois. Mais je sais qu'il y a des gens, tu vois, qui ont moyennement perçu le truc.
Pas ce sens de l'humour.
Disons que c'est un humour noir, tu vois. Pas tout le monde en a, hein, ce que je peux comprendre. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet sympa et léger, donc la collaboration, enfin les collabs. Donc en fait, c'était l'idée en fait, de parler, parce que l'épisode précédent, c'était une collab entre Nautil et La Petite Maize. C'est vrai que nous, on en fait. On vient de sortir, au moment où on écrit Céline, une collab entre Bière Academy et Wiley à Barcelone. Et donc vous voyez souvent, en fait, sur des canettes, on a des gens qui nous demandent, mais c'est quoi le principe, qu'est-ce que vous appelez une collab? Et donc, alors une collab, simplement, c'est quand, sur la base, c'est deux brasseries qui s'entendent bien, qui décident de faire une bière ensemble. Ça peut être une collab de deux brasseries, ça peut être trois brasseries, ça peut être des fois un peu plus. Il y a eu par exemple une grosse collab qui avait été faite pendant le Covid, une bière que j'avais testée sur le blog d'ailleurs, où tu avais, je crois, une vingtaine de brasseries différentes, quoi, je crois que c'était de la région bordelaise ou toulousaine.
Mais comment, je peux comprendre une collab à deux, tu brasses à deux,
ouais.
Ou deux, trois, allez. Quand tu es très nombreux, quel est l'apport de chacun? Enfin, en quoi la collab est une collab, en fait?
Alors, du coup, là, dans l'idée, c'était...
J'ai posé une question piège, désolé.
Non, dans le Covid. Dans le cadre du Covid, c'était... Non, c'est pas une question piège, en fait. Dans le cadre du Covid, en fait, c'était histoire de dire « Coucou, les brasseurs artisanaux existent. Arrêtez d'acheter des packs d'Heineken et vous les faire livrer. » On a mis en place des moyens de livraison sur PrestaShop, sur Uber Eats, même certaines. En gros, c'était histoire de promouvoir un truc. Donc des fois, tu peux avoir par exemple, tu vois, le collectif Bière de Provence vers chez nous fait des fois une bière en fait à beaucoup de brasseries, et cette bière, en gros, les frais sont pour l'association, et ils sont également là pour promouvoir le milieu brassicole. Comme ça, en fait, le client qui prend la bière, il va voir tous les noms des brasseries et il va se dire, putain, il y a genre 15-20 brasseries en fait dans la région. Après, ça n'a pas un réel intérêt dans le sens ludique pour les brasseries, parce que forcément, hein, c'est de la DDE, hein, c'est, tu en regardes un qui bosse et pas tout le monde va bosser en même temps. Mais après, dans le cadre d'une collab classique, alors, comme nous quand on est allé avec Wiley, alors par exemple, cette collab qu'on a faite, par exemple, c'était un délire avec les gars où on a dit, bon, on n'a pas de brasserie, mais on est en train d'en monter une. Voilà, on est en train. C'est Philippe Croison, ça. Mais on a dit, on aimerait bien faire une bière avec vous, tout ça. Et donc, comme on avait fait avec Icebreaker l'année dernière, donc nous, cette collab, par exemple, à la fois, ça nous a permis de se déplacer en dehors du bar et donc d'aller visiter. J'espère qu'on appelle du benchmark, et de visiter en fait d'autres bars et d'autres brasseries et voir un petit peu comment s'en inspirer. Et également d'aller dans une brasserie. Et c'est toujours intéressant pour une brasserie, parce que là, nous, on se qualifie maintenant de brasserie, parce que au moment où le podcast sera diffusé, on devrait avoir démarré la prod de notre local avec la marque de Bière Academy, mais aussi Bière Lanterne Brewing et les deux, trois autres marques qu'on décline un peu pour des copains et tout ça. Nous, ça nous permet de voir, par exemple, tiens, tel matos, tu peux éprouver un matos que tu ne connais pas. Tu vois, c'est pas comme une voiture que tu peux essayer, en fait. Donc, du coup, c'est vrai que fabriquer une bière sur des matos qui viennent de République tchèque, d'Italie ou de Chine, c'est pas la même chose. Donc, nous, quand on est allé à Wiley, tu vois, Antoine, par exemple, a pu voir un petit peu quelles étaient les méthodes qu'ils employaient. Donc, lui, par exemple, qui a un œil très sur tout ce qui est un peu ergonomie du truc. Il a vu des trucs qu'il trouvait géniaux et il a vu des trucs où il me disait, tiens, je peux l'optimiser, ça, tu vois. Donc, et c'est, en fait, c'est l'intérêt aussi, c'est de faire du benchmark pour les deux brasseries, voir le fait de collaborer, c'est de dire, qu'est-ce que je peux faire avec telle levure, qu'est-ce que toi tu fais, moi je fais comme ça, est-ce que toi tu fais comme ça, tu échanges des informations. C'est beaucoup plus simple que dans un festival où en fait les brasseries se rencontrent toutes, mais elles sont toutes en fait sollicitées par le monde, en fait, donc elles n'ont pas l'occasion. Et puis fin de journée, tu n'as pas envie de parler boulot, tu vas prendre l'apéro avec les confrères. Là, c'est vraiment dans un cadre pro. Donc, en gros, si tu fais bien les choses, tu picoles pas, tu travailles, vous échangez, tu détermines les bénéfices. Est-ce que on fait du 50-50? Est-ce que je prends un tiers, tu prends deux tiers, etc. Et ça, c'est le vrai. C'est l'intérêt principal de la collab, c'est que parfois aussi, une brasserie, par exemple 90 BPM, qui est très connue, va peut-être faire une collab, je suis une bêtise, avec nous, alors qui venons de débuter.
parce qu'on s'entend bien. Et tant voilà, demain on dit bah, on fait une collab avec eux. Nous, on n'est pas très connus, enfin on est connus chez nous à Marseille, mais pas trop sinon ailleurs. Tu fais une collab 90 BPM. C'est le principe qu'on a fait avec Wally d'ailleurs. Hein. C'est ah bah t'as ton logo et donc du coup t'as des gens à Dijon, t'as des gens à dans le nord de la France, en Bourgogne, qui du coup vont découvrir tiens c'est qui bien l'antenne Brune, tu vois. Voilà, c'est l'intérêt d'une collab si je prenais cet exemple-là.
Comme on a fait dans le au début de l'épisode avec la Yeasty Boy et
exactement.
Voilà, bien, en mode moins préparé, hein, mais on est allé voir sur internet.
On est allé voir, tu vois. C'est l'intérêt de ça, c'est que tu te fais connaître. Donc bah, Wiley, ça nous a permis de, ça nous permet également, comme Wiley vend beaucoup en Espagne, bah, que notre logo se soit un peu diffusé en fait en Espagne et un peu du côté de l'Occitanie. Et la Brew Against the Machine avec Icebreaker, ça nous a permis bah, d'être vendu sur le territoire un peu du Nordique. Quand je dis Nordique, c'est que ça allait jusqu'en Suède, hein, donc vraiment. Ça,
c'est le Nord.
Ça, c'est le Nord, le Nord. On a fait Toulouse et tout ça. Et donc, c'était assez cool parce qu'on est sorti de notre secteur purement marseillais, on va dire, purement provençal. Donc voilà, là, on a un vrai intérêt. Après, tu as plusieurs types de collabs. Tu peux avoir des collabs faites entre brasseries, donc comme je disais, tu peux avoir des collabs qui sont faites avec des bars. Donc comme nous, hein, Bière Academy, là, la première collab vraiment c'était avec le bar Bière Academy plus que la brasserie. Donc là en fait c'est, il y a eu des collabs qui ont été faites par exemple du côté de chez nous entre la Route des Bières, il y a eu des collabs faites avec je crois que c'est le Bière Paul Jacques qui fait aussi des collabs à une époque. Et donc là c'est différent que de faire la bière du bar par une brasserie. Tu vois, c'est par exemple, je pourrais dire Bière Academy, je fais faire ma bière par la Plaine. Et il y a le nom Bière Academy, c'est fait par la Plaine et voilà. Mais alors, du coup, c'est tu te rends dans la bière à façon. Et c'est ça que des fois, du coup, il y a une espèce d'opacité qui peut se faire avec, enfin que je trouve, hein, en fait, avec des collabs qui sont plus en fait du côté à façon, ouais, que de la collab, parce que les gens ne sont pas venus sur place et tout ça. Donc du coup, c'est il y a une certaine
bah, c'est opacité. C'est un peu ce que je pensais des groupements où il y a une collab à
voilà.
Ah, très nombreux, parce que mécaniquement, ils ne peuvent pas tous se mettre dans la même pièce pour brasser. Quoi.
Bah non, non, du coup, surtout que, bon, voilà, moi, d'aller chez Heineken brasser, et ouais, t'as l'espace en mètres carrés, mais pas forcément sur les machines, tu vois. Donc voilà, l'intérêt de ce type de collab, que ce soit un bar ou une brasserie, bah, c'est en gros une manière de se faire de la promo ensemble, de se promouvoir entre brasseries, d'aider un petit brasseur avec qui t'es pote. Je donne un exemple, on est toujours sur nos copains de 90 BPM. Ils ont fait une collab avec Wild Creatures. Wild Creatures, c'est une très très belle brasserie qui marche très très bien, que je vends d'ailleurs, moi aussi. Tchèque, donc, qui fait de tout ce qui est un peu fermentation spontanée, fermentation mixte. Donc c'est genre une sorte de cantillon tchèque, quoi, on va dire, pour aller grossièrement dans le truc. Et 90 BM a fait une bière en collab avec eux. Et franchement, je l'ai goûté et puis c'est une tuerie. Et ça permet à quoi ? Ça permet du coup à 90 BPM d'être vendu en République tchèque. Et donc le caviste qui vend du Wild Creatures va dire bah, tiens, c'est une collab avec les Dijonais. Et donc c'est une très bonne occasion parce que la collab avec des étrangers, comme on a fait avec Wally ou comme 90 BPM l'a fait, ça te permet de pénétrer un marché étranger et de voir un peu comment il va réagir. En plus, quand je disais tout à l'heure, la compagne de Victor, Alexandra Berry, a créé avec sa sœur Fine French Beers, qui fait la promotion des brasseries à l'étranger. Et donc forcément, promouvoir les brasseries étrangères, certes, tu peux les envoyer dans des festivals. Mais si tu fais déjà une collab, en fait, tu mets un petit pied dedans et peut-être que tu peux être sollicité sur un festival encore plus rapidement que si tu avais été juste à faire envoyer des mails, quoi. Donc voilà, après, c'est pas une bière à façon. Une bière à façon, ça va plus être, par exemple, la bière qu'on va faire avec 12 Parsec, notre camarade, qui on avait fait l'épisode Dragon Ball Z et qui on va faire l'épisode un jour sur Star Wars. On a le Kagenkan, Seb, avec qui on va refaire un épisode d'ailleurs, qui a fait une bière pour une association pour les chiens. La Dogs Family. Alors les gens sont venus brasser avec lui, donc en fait ils sont venus brasser, mais techniquement c'est une collab ou entre guillemets à façon, quoi. La recette, il l'a refait et puis ça va pour l'association. Donc c'est une petite différence comme ça qu'il y a des fois avec les collabs. Donc, faut pas confondre en fait la bière faite pour le bar en permanence, comme on peut le voir dans certains pubs. Là, on est vraiment sur un produit en fait, c'est deux brasseries en général, une collab qui s'entraide en fait et qui se monte mutuellement en gamme. C'est très bizarre dit
comme
ça.
C'est pas très Charlie, ça.
C'est pas très Charlie. Et donc, voilà, c'est vrai que nous, dans nos rayons, on a pas mal de collabs qu'on découvre des fois, pas tout, des fois sur le tard. Tu prends la canette, ça fait 3 semaines qu'elle chasse cette canne en rayon. Et puis tu l'as pas goûté, tu l'en retournes et tu vois que bah, en fait, c'est une collab avec une autre brasserie, donc là tu la vends telle quelle. Quoi. Mais c'est vrai que voilà, il y en a, beaucoup. Je donne deux exemples, nous régionaux par exemple. On a une brasserie qui s'appelle Bulle de Provence, avec Louis, JC, Dimitri, Gaël et c'est Louis, JC, Dimitri, Gaël et Louis. Oui, c'est ça, j'ai dit tout le monde. J'ai eu peur d'avoir eu quelqu'un.
Ça fait deux fois Louis.
Louis, JC, Dimitri, Gaël. Oui, c'est ça, 4 personnes. Brasserie qui est située à Puricard. Ils sont super bien situés dans des champs, tout ça. Donc, c'est assez cool. Bulle de Provence, donc, qui ont bien avancé côté région, tout ça. Ils sont dans une démarche aujourd'hui de dire on a envie de faire. De faire des nouvelles choses, en fait, on a envie de retravailler un peu notre image et d'aller un peu au-delà de notre zone de confort. Donc, ils ont refait des visuels un peu plus chiadés, un petit peu plus cartoonesques, on va dire, pour attirer un public peut-être un peu plus jeune. Par exemple, la Bulle de Provence blanche est devenue la Blanche Lunaire avec un cosmonaute. C'est exactement pareil, quasiment, sauf que du coup, ils ont changé le visuel. Ensuite, tu as justement les collabs, en fait. Et en fait, Louis... À chaque fois qu'une brasserie passe dans les parages pour un festival, par exemple, il va organiser de la collab. Donc, il a fait une collab avec Icebreaker il y a quelques mois. Il y a eu le festival d'Aix qui a eu lieu il y a quelques semaines. Il a fait une collab avec Padam Brewing Company. Il y a eu le festival de bière en scène. Il a fait une collab avec la petite Maze qu'on a eu dans l'épisode précédent. Et donc, tout ça à chaque fois, pourquoi ? Parce que ça lui permet en fait que la petite Maze, Padam Brewing Company, tout ça... Les bières sortent sur leur territoire à ces brasseries-là, donc à Paris et tout ça, à Tours. Et donc, Bulle de Provence peut se faire connaître de cette manière-ci. Et donc, sans qu'il ait besoin d'aller démarcher, appeler des distributeurs qui vont lui dire « Mais il faut que tu aies un certain volume pour pouvoir me proposer ton truc. » Et donc, lui, il va aller vers des gens qui sont déjà distribués, qui ont déjà des volumes suffisants pour les distribuer, mais qui ils sont en contrat. La bière, du coup, elle est inscrite dans les catalogues. Et les gens commencent un peu à connaître. Et donc, eux, ça leur permet aussi de créer du contact, créer du réseau, tout ça. Dans le même style, tu as Zoomai, qu'on connaît très bien, qui sont juste à côté de nous, hein, dans notre studio. Zoomai qui a fait des collabs avec la brasserie Amix, avec Sabotage. Ils en font régulièrement. Dès qu'il y a une brasserie qui vient, hop, il la chope au passage. Il dit, allez, on fait une collab ensemble. Et puis, ils échangent et tout ça. Ça permet, par exemple... Azumaï de se faire connaître dans le nord de la France en montant du coup dans des festivals comme le Beer Pot d'Arras avec tout ça. Et donc ça leur permet du coup de sortir des sentiers battus d'une manière qui est économiquement finalement assez viable parce que ça reste de la bière avec une brasserie. En général, c'est pas Jules Clodo, c'est des gens quand même qui savent brasser. Tu vas pas faire ça avec le tout petit brasseur qui débute ou le brasseur un peu semi-indus qui fait de la merde. Donc, tu vas aller vers des gens qui ont déjà une communauté. Tu crées ta bière avec eux. Et toi, ça t'évite en fait d'avoir à recourir à des démarches un peu à la con auprès d'un distrib en lui disant moi je voudrais être vendu là, on fait des rendez-vous, tu négocies des tarots, tu sais pas si tes bières vont se vendre en fait. Donc, et il y a beaucoup de brasseries qui ont tenté d'aller sur des marchés comme l'Alsace ou autre, par exemple, et qui, ça se vend pas des masses. Et donc, le distributeur ne les reprend pas. Parce que finalement, les produits ne sont pas assez bien faits. Donc, eux, ça leur permet aussi du coup, de créer un produit et de voir quel est le public qui va apprécier. Peut-être que du coup, une bière provençale blanche classique ne va pas plaire du tout à un public du Nord qui n'en a rien à foutre. Et du coup, peut-être que tu fais une triple avec un peu des épices. Du coup, ça te permet de faire quelque chose d'un peu plus chiadé, un peu plus sympa. Donc voilà, c'était un peu plus léger, mais c'était histoire de parler de ce truc-là, parce que je dis, on en a jamais parlé, donc c'était intéressant. L'occasion. C'était l'occasion. Donc on va ouvrir notre bière, je vais diffuser un extrait du coup, de la Cité de la Peur, de 3 minutes, qui nous laisse le temps de servir notre bière et de faire la déguste, passer au quiz et ensuite à nous recoller, les amis.
Arrêt au port de Nice, 2 minutes d'arrêt.
C'est con. Arrêt au port.
Odile de Ré ?
Non.
Oh, pardon. Excusez-moi, je cherchais Odile
de
Ré.
Donc là, c'est Dave qui se retrouve. C'est très visuel, hein, pour ceux qui n'ont jamais vu Les Nuls.
Vous êtes Odile Doré ?
Non, je suis le pape.
Dans l'extrait, on voit Odile avec des néons, des panneaux partout. Halt, Odile. C'est très Zaz, hein, l'humour Zaz, avec beaucoup de gags en arrière-plan également.
Et non, pas la musicienne.
Pas la musicienne, ah. Non.
Je suis envoyé par l'agence Security.
Et vous êtes ?
À l'arrêt ou pas ?
Ça, je sais, mais votre nom, c'est quoi ?
Oh, Serge.
Ça, c'est très Leslie Nielsen dans Y a-t-il un flic, Y a-t-il un pilote dans l'avion ?
Ah. Ouais.
Non, parce que Karabazov, les frères, aucun lien, fils unique.
Ah, d'accord, oui, bien sûr. Oui, c'est drôle.
C'est vrai. Loulou ?
Attention.
C'est moi.
Loulou ?
Loulou ?
Oui, Loulou Blou.
Loulou ? Loulou ?
Oui, c'est moi.
Attention. Les avions.
Non, merci, j'essaye d'arrêter.
Ok. Merci. Elle et Marche sont attendus quai numéro 1. Attention, l'arrière de l'appareil ne dessert pas les villes de Côte.
C'est tous ces trucs en arrière-plan qui rendent ce film si voilà. Génial. C'est.
Et voilà. Au revoir, Simon.
Au revoir, Sylvie.
Bonjour, Simon, je suis Odile de Rey. Simon Jérémy, voici Serge Karamazov.
Aucun lien.
Voilà donc Monsieur Karamazov qui sera chargé de votre confort, de votre sécurité. Vous avez des bagages, Simon ?
Ah bah non ! On m'a dit de venir, pas de venir avec des bagages, pourquoi il fallait que j'en prenne ?
Non, non, c'est pas grave. Allons-y.
Dites, on n'attend pas votre sœur ?
Bon, Monsieur Karamazov, vous conduisez, moi je passe derrière. Vous, Simon, vous prenez la place du mort. Non, bon, Simon, Simon, mettez-vous là, vous serez mieux. Hein?
D'accord.
Direction assistée.
Ah oui.
Intérieur cuir.
La pub Safran.
Condamnation centrale des portes. Safran, série limitée, Palme d'Or. Une voiture, qu'elle est bien pour la conduire.
Voilà, c'était cette un très belle. Oh,
là, qui est reparti pour un tour.
Oh, c'est une bonne annonce des Gardiens de la Galaxie, ça. Mais c'est, la playlist s'est suivie. Ouais, donc c'est très Zaz, hein, c'est très visuel. Effectivement, c'est pas très podcastique. L'extrait, même s'il y a quand même des trucs très drôles en fond sonore. J'ai pris l'extrait de l'aéroport où tu entendais les voix off, les voix. L'aéroport à Nice, 2 minutes d'arrêt. Attendu quai numéro 5, voilà. Et c'est vrai que c'est très ça, l'humour Zaz, le premier. Le premier degré, c'était souvent Leslie Nielsen qui avait ce premier degré-là. On en avait déjà parlé, mais si vous aimez l'humour des nuls et tout ça, bah, regardez la série Police Squad, regardez Les Y a-t-il un flic, regardez tout ça. Il y a eu peu de films depuis récemment en fait, qui sont allés dans ce territoire-là, on va dire. Ou sinon, s'ils y sont allés, c'était too much, graveleux, mal foutu, mal branlé, donc... Donc voilà, c'était pas foufou. Donc on vient d'ouvrir donc notre première mazout. On a deux canettes en fait. Une canette sur, donc en dessous, il y a marqué « Vous ne voulez pas une bière d'abord ?» Et je vous lis le texte du coup. On vous arrête tout de suite. Vous ne pourrez pas faire rouler votre Renault Safran avec cette bière. Ce que vous pouvez faire en revanche, c'est vous asseoir confortablement, mettre le dernier album de Mozart et tremper les lèvres dans cet apéritif stout. Une bière onctueuse et chaleureuse aux notes de café, de chocolat et de vanille. Il ne peut plus rien vous arriver d'affreux maintenant. Voilà, donc un texte très fun, bourré de rêve du coup forcément au film. Et donc on est sur une petite apéritif stout qui titre à combien ? Je n'ai pas regardé, excusez-moi, c'est 10,5. Donc voilà, ça vaut bien son style, on va dire. Donc on est sur une mousse, on a parti la canette, du coup elle s'est un peu évaporée depuis que je parle. Mais c'est une mousse couleur ivoire assez sympa, on a une robe noire, hein, bien noire. Et on a un nez puissant, enfin alcool, tu vois.
Ah oui.
Bien.
Effectivement.
Avec des notes un peu chocolat. C'est très sympa en tout cas, ça se...
Ouais, ça se franchement, le nez est sympa.
C'est pas celui de Cléopâtre.
J'allais dire, j'allais faire une blague de merde comme ça. Donc, non, plutôt...
Moi je me suis retenu, vous voyez, je vais me tenir. Hein.
C'est faux, tu devais être en train de boire et du coup c'est pour ça. donc ouais, une très bonne bière, très bonne Imperial Stout. On remercie encore une fois toute l'équipe de 90 BPM qui nous ont envoyé cette jolie canette. Et puis je vous propose de passer, donc on arrive à une heure d'émission, on arrive sur la fin, de passer à un autre quiz pour lequel en fait je n'ai visé que des comédies françaises en fait.
Ouais, Les Visiteurs.
Voilà. Bon, bah, t'as déjà une réponse.
C'est pas encore à quelle question.
Donc voilà. Comédie française, donc j'avais déjà quand même pas mal d'idées. J'en profite pour ceux qui aiment les comédies françaises. J'ai découvert une chaîne YouTube qui a été vachement utile pour trouver des infos et tout pour ça, qui s'appelle Ni Co TV avec l'esperluette, Ni Co TV. Et c'est un gars en fait qui fait des revues de films, des rétrospectives et qui parle des coulisses, mais uniquement de films français un peu cul. Donc on va retrouver toute la saga des gendarmes, la 7ème compagnie, Banzai.
Une chaîne de niche. Quoi.
Une chaîne de niche, mais qui a quand même pas mal d'abonnés. Opération Cornet Beef, voilà, tous ces trucs-là. Donc là, en fait, il remonte un peu le temps, en fait, j'ai remarqué dans ses vidéos. Donc je pense qu'il va commencer un peu à toucher du doigt les comédies un peu des années 2000, les années 80, fin des années 90. Mais c'est très intéressant. Et donc, moi, par mal de ces films, en fait, j'ai pu les redécouvrir en voyant ces vidéos. Et donc, je voulais en parler parce que c'est vrai que c'est une bonne source d'infos sur ça. Et c'était à souligner. Donc, on va commencer notre quiz avec notre première question. Je pense que ce sera un quiz assez simple pour la plupart d'entre vous. Si je vous dis des gens qui organisent des dîners un peu particuliers.
Le dîner de con.
Voilà, hein, classique du genre, hein, extraordinaire ce film, qui a eu sa version américaine avec Steve Carell.
Dinner with Schmucks. Ouais.
Qui était...
Je ne l'ai pas vu.
Étonnamment amusante. Ça vaudra jamais la version française, absolument jamais. Mais la déclinaison américaine n'était pas trop mal fichue. Tu vois. Un truc de comédie qui n'est pas dans le quiz d'ailleurs, qui a été décliné aux États-Unis que je n'ai jamais vu, c'est La Cage aux Folles avec Robin Williams.
Ah, moi non plus, je n'ai pas vu.
Et je serais très curieux, parce qu'il paraît que c'est pas mal fait. Il paraît que c'est un beau remake. Deuxième film, attention, ça va aller vite, c'est une bande de potes qui vont faire du ski, qui vont ensuite à la plage. Ski. Voilà, ils bronzaient tout court. Troisième question, un film qui explose le concept de l'esprit de Noël.
Die Hard. Voilà. Ah oui, non, putain.
Français.
C'est pas français.
Français, monsieur.
Il meurt violemment.
C'est pas français.
Quatrième question. C'est un film qui parle de voyage dans le temps, mais qui semble aussi en vouloir un petit peu à la
Visiteur.
Poste. Voilà. Oui, parce que j'ai vu, du coup, la chaîne Nienco TV a fait une rétrospective du coup des Visiteurs et ils parlent de la version américaine qu'ils avaient fait. Mais quelle horreur. Je l'ai jamais vu, mais quel enfer. Tant j'ai vu le 3 et il y avait des bonnes idées, mais c'était. J'aime pas les films où à un moment donné il y a trop d'acteurs connus pour faire style, on fait venir des gens, genre le dernier Astérix qui était bidon. Mais alors la version Amerloc, elle est horrible quoi. C'est terrible. Dame Ginette, c'est Tara Red de American Pie quoi.
Oh putain.
Mais tu mets pas Tara Red. Dame Ginette, c'est une clodo, elle est dégueulasse, Dame Ginette. C'est ça qui est drôle, tu vois. Mais bon, voilà, puis c'est Marianne Chazelle, quoi. Tu peux pas comparer Tara Red et Marianne Chazelle, tu vois. J'aurais vu une autre actrice, tu vois, limite un peu plus âgée, dans le délire.
Ou alors tu la grimes bien.
Ou tu la grimes bien.
Genre Charlize Theron dans Monster, quoi.
Voilà, ouais, mais la Tara Red, c'est une très mauvaise actrice. Tu aurais mis une actrice un peu plus connue.
Elle est passée comme une lettre à la poste, celle-là.
Oui.
Oh, ouais. J'ai pas entendu, t'as dit quoi, ok.
Tu la grimes Bergen.
Oh.
Eh oui, pardon.
Cinquième question. Quand les concurrents directs des nuls font un film.
Trois frères.
Ah. Ouais, alors concurrent sans être concurrent, mais on entend souvent des gens qui confondent les nuls et les inconnus. Du coup, c'est vrai que.
C'est pas du tout le même style.
C'est pas du tout pareil. Non, non. Mais les deux sont incroyables. Sixième question. La préhistoire vue par l'industrie du shampoing. Voilà, un film qui n'est pas sponsorisé par Eden Shoulders, contrairement à Evolution. Septième question. Quand Claude François rencontre Monsieur Manhattan.
Podium.
Podium, voilà, tout à fait. Et huitième question. C'est un mec de droite blanc, un arabe et un juif qui sont dans une galère.
Ok.
Ça commence comme une blague. Mais...
Attends, qu'est-ce qu'on a
entendu? C'est un mec de droite blanc, un arabe et un
Jacob
juif qui sont, ouais, qui sont dans une galère. Neuvième question. Avant qu'on commence à dire que ouais, la génération Z c'était des cons, mais on avait aussi un film qui parlait de jeunes cons.
Le père jeune.
Non.
Non, non, les quatre garçons pleins d'avenir.
Ah oui.
Plus vieux, non, plus
encore plus vieux.
Encore plus vieux.
Putain. Attends.
Daniel Auteuil.
Oh putain. Bah, les
Sous-doués, c'est pas ça.
Voilà.
Bah, je l'ai dit tout à l'heure.
Ah, j'ai pas envie.
Ah bah voilà. Autant, bon. On m'écoute plus.
Je demande le replay.
Le MC ne suit pas.
Le 12e question. C'est un crétin, une brute, des gags et un nom qui évoque un animal dont on kiffe le fromage.
La chèvre.
Et on pourrait aussi dire aussi les compères ou les fugitifs, c'est aussi le même duo, hein. Le même duo culte. 13e question. Un film avec des visiteurs au casting, mais dans un contexte d'espionnage international avec la DGSE.
Opération Cornade Beef.
Cornade Beef, donc. Si je vous dis Coluche et De Funès qui sont fans d'artisanal et qui luttent contre la bouffe industrielle, c'est ça. L'aile ou la cuisse qui luttent contre Tricatel. 15e question. Un film qui va vous faire détester les personnes âgées.
Tati Daniel,
ouais, c'est ça. 16e question, un film dont le titre veut désormais dire « Personne qui reste vive chez ses parents après 30 ans ».
Tanguy.
Moi.
J'ai failli dire Brice.
17e question, quand la Résistance croise Marvel ainsi que l'industrie des coiffeurs.
Ah, papy fait de la Résistance ?
Ouais.
Super résistant.
Je suis super résistant. 18e question, un film d'enquête à l'américaine mais avec beaucoup de trucs français dedans.
Cadéo, qui a tué Pamela Rose.
Voilà, Pamela Rose.
Ou l'enquête au Corse, mais c'est pas très français.
Aussi, non.
français.
Un film que j'ai pas cité mais qui est tellement con aussi qui m'a fait rire, c'est Prince Vilibert, Prince Puceau.
Ah oui, avec Jérémy Régnier.
Ouais.
C'est
une comédie musicale
incroyable.
Une parodie de film de KDPDP français. J'ai vu au ciné ça.
Putain.
C'est incroyable. Incroyable. 19e question.
Fait un peu penser à la série Galavant. Je ne sais pas si vous êtes
non.
C'est une série de deux saisons d'une comédie, mais en comédie musicale en fait. Mais de KDP aussi. Donc,
Ok.
19e question. Quand deux débiles se la jouent Die Hard.
Ah oui, La Tour Montparnasse Parnasse Infernal.
Ah ouais. J'avais vu au ciné, qu'est-ce qu'il était con.
Je tire dans la tête à la main.
C'est toute beauté. Tu sais qu'un film en fait a marché quand il y a des répliques qui restent cultes.
Ouais,
en fait. Après, ils ont fait une.
Pas qu'il a marché. Il est resté culte.
Il est resté culte. 20e question, je l'ai vu au ciné avec toi, Eric. C'est Dupontel qui met en cloque un juge.
Ah.
9 mois ferme.
9 mois ferme.
Il était très con.
Ouais, très bon. Et si vous le regardez, prêtez attention aux lignes d'information des JT.
Oui,
c'est sans doute le.
Je crois que c'est à ce moment-là où on a entendu le fameux rire d'Eric dans toute la salle et que les gens ne comprenaient pas. Et qu'en fait, il a fallu que je dise à côté relisez les bandes en fait. Et les gens ont commencé à lire et tu vois, tout le monde a commencé à partir à rigoler après nous, tu vois. C'est, je m'en souviens d'une, c'était championnat international de ball trap pour aveugles. déjà 300 morts, un truc comme ça. Tu vois. C'était d'une bêtise, c'était génial. Quoi. Donc voilà pour ce petit quiz des films français, parce que c'est vrai que les comédies françaises, il y en a des biens. Il y en a des biens. Ces dernières années, il n'y en a pas tant que ça des biens, parce que ça reste au niveau. Tu pourrais le parler, c'est. C'est toujours le même titre d'affiche, déjà. Si tu prends le computer du stagiaire des affiches.
Après, il faut aller taper plutôt dans les premiers films de certains réalisateurs.
Ouais. Enfin,
récemment, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est.
T'en as avec. Du coup, avec le Palmacho et il y avait une mouche.
Alors, ça, c'est du Quentin Dupieux. C'est
Quentin Dupieux,
particulier,
ouais.
Quand même. Mais par exemple, les folles aventures de Max et Léon du Palmacho.
Voilà, ça, c'est drôle.
C'est drôle. Tu as les films de. Je parlais de Play.
Max Boublil.
Avec Max Boublil, ils avaient fait un film avant. Comment il s'appelle ? Radio Star.
Radio Star, ouais.
Radio Star avec Manu Payet, Clovis Cornillac, etc. D'autres films comme ça, Les Gamins, entre Chabat et Boublil, là aussi.
Ouais, c'est vrai.
Non, t'as quelques petites comédies, mais il ne faut des fois pas taper dans les plus. Les films de Jonathan Barré aussi, notamment avec le Palmacho, c'est lui qui avait fait. Bonne Conduite récemment.
Oui, c'est ça.
Il y a quelques films voilà, comme ça qui peuvent.
Je voulais le voir ce film d'ailleurs. Justement.
Peut-être pas encore au niveau de tous ceux que tu as évoqués là, mais.
Non, mais c'est vrai que dernièrement, au final, tu t'aperçois que les comédies qui ont été le plus médiatisées, c'est souvent des comédies avec Christian Clavier ou Danny Boone. Parce qu'il y avait un film chez Chichi, j'aurais pu le citer, qui est un film très bien.
J'ai eu le plaisir de ne jamais voir. Enfin, le plaisir ou le hasard, en fait, c'est pas une volonté.
Il est très bien, mais voilà, le problème, c'est que ces comédies-là, c'est. on va jouer le cliché de voilà, bah allez, maintenant c'est le mec qui vote à droite, qui va se retrouver. En fait, on joue avec le côté woke de la société pour en faire des comédies, sauf qu'en fait, c'est lourd et pas forcément très drôle. Alors que tu pourrais faire des trucs beaucoup plus barrés et tout ça. Christian Clavier qui va accueillir en roumain, il y a eu un film avec Harry Habitant.
Le Grand Partage. Dans
Le Grand Partage, je l'avais vu avec.
Didier Bourdon.
Ouais. Et je l'avais vu avec une amie à nous qui s'appelle Marine d'ailleurs. Je m'étais bien marré, je sais pas si c'était avec nous d'ailleurs, mais je m'étais beaucoup beaucoup marré.
J'ai vu au ciné. C'est tout ce que
il était intéressant parce que du coup il était drôle parce qu'il y avait du Didier Bourdon, les inconnus. Mmh. Et le sujet était pas inintéressant. C'était amusant de voir un peu plein de profils et tout le monde prenait pour son grade, tu vois. Après voilà, ce que j'aime bien, c'est tu vois par exemple, ce que j'aime pas justement, c'est que voilà, et maintenant la comédie avec Harry Habitant, c'est typiquement le genre de truc où en fait on surfe sur une actu. On en fait une comédie où en fait tu vas mettre deux personnages en opposition totale, mais sauf que les personnages sont caricaturaux possible et c'est super relou en fait. Donc du coup
super relou.
Donc du coup ouais, j'ai du mal avec un peu ces, tu vois, les qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Le premier c'était amusant, tu vois, c'était un peu original on va dire encore. Puis le deuxième, puis le troisième, en fait tu t'aperçois que les synopsis bah, ça change pas. Tu rajoutes genre le deuxième, je crois il rajoute les parents en fait. Donc en gros, tu rajoutes une confrontation avec d'autres parents, bon ben on s'en fout. Et puis l'autre derrière, c'est quoi? C'est les parents, je crois que c'est les parents rebeux ou les parents asiates. Enfin tu vois, c'est... Il n'y a pas d'intérêt réel quoi. Je trouve que c'est dommage que... Tu vois, ça fait vieux con, je dis, ah, c'était mieux avant, mais non en fait. Mais comme tu dis, voilà, les films un peu plus confidentiels, c'est beaucoup mieux quoi. Il est temps de passer à nos recos ou non recos. Qui en a une? Bon, je sais que j'en ai une, ça c'est sûr.
Mais nous t'écoutons.
Eh bien, écoute, vous êtes en train de regarder l'écran d'Eric qui coule en fait.
Oui, c'est ça.
Parce que Eric, on a changé d'endroit en fait pour cet épisode et le précédent. On est dans un bureau climatisé parce qu'on n'a plus de clim en bas et en fait Eric a tenté de mettre son écran à la verticale et bizarrement. Y a un liquide jaune qui coule dans l'écran et
donc s'il y a des informaticiens, si je voulais voir si en mode paysage du coup, ouais. Si on retrouvait le truc avec un fond blanc, mais non, on ne le voit pas. Ça vous fait
le genre
qui voilà. L'écoutait, mais
donc si vous avez un écran Iliama et que vous le mettez à la verticale et qu'un truc coule dans l'écran, bah, appelez-nous et expliquez-nous aussi si c'est bon.
Envoyez-nous un message sur les réseaux sociaux parce voilà. Que si vous n'avez pas notre numéro, vous ne pourrez pas nous appeler.
Voilà. Ou envoyez-nous de l'argent sur Tipeee pour qu'Eric puisse racheter un écran qui visiblement est en train de canner devant nous. Écoute, ouais, bah, je vais commencer. Alors que, j'avais fait une reco brassicole de la collab qu'on a faite, mais du coup, j'en ai déjà parlé, donc inutile. Par contre, je vais faire une non-reco parce que quitte à parler des nuls, autant vous parler d'un film nul. Et un film nul, eh ben c'est Fast and Furious 10 que j'ai eu la joie de voir en 4DX et donc du coup j'ai dû y laisser quelques vertèbres. J'avais déjà fait les articles sur la saga Fast and Furious sur les arts narratifs et je dois avouer que les Fast and Furious c'est un plaisir coupable dans le sens où en fait c'est tellement nul que j'ai envie de le voir pour me dire mais à quel point ils sont allés dans la nullité, à quel point ils sont allés dans le cliché et tout ça. Et j'ai pas été déçu à ce niveau-là. Je vous conseillerais pas d'aller le voir parce que c'est de la merde concrètement et que moi j'ai un abonnement ciné donc du coup ça m'a pas coûté grand chose au final à part 2h30 de ma vie ce qui est déjà pas mal mais par contre qu'est-ce que c'était pourri tant dans l'épisode précédent ils arrivent à aller quand même dans l'espace avec une Ford Escort, un truc à la con tu vois. Donc déjà ça envoie le pâté tu vois. Mais là ils jouent le méchant mais joué par un Jason Momoa. Mais ils lui ont dit au mec, t'es en roue libre, mais il faut pas le mettre en roue libre, ce mec, en fait.
Ni dans l'eau, en vrai.
Ni dans l'eau. Mais donc, les scènes à Rome, il est en moto, et tu l'entends, il fait « Oh, sans les murs !» pendant qu'il est en moto et qu'il tue des gens. Il croise Letty, quoi s'appelle l'actrice là, qui joue avec Vin Diesel. Son nom m'échappe, mais bon, la meuf de Vin Diesel, quoi, de Dominique
Toretto. Michel Rodriguez.
Et il est en moto, elle le poursuit en moto, puis il la regarde, il y a un cut toutes les 3 secondes, c'est infernal. Et il la regarde, il lui fait Letty, va faire cool. Et tu fais, mais d'accord. Quoi? Et puis surtout, cette scène-là est intéressante parce qu'elle se passe à Rome et dans Mission Impossible Reknocking, il y a une scène de poursuite également qui est super bien foutue, dans les mêmes endroits, mais vraiment les mêmes lieux, en fait. Sauf que dans Fast and Furious 10, en fait, je vous donne un truc, hein, ils envoient en fait une partie de l'équipe de Dominique à Rome pour une mission, parce que c'est devenu quand même des agents secrets qui roulent dans des Lamborghini dorés. Et pourquoi une Lamborghini dorée? Parce que tu comprends, le deal, c'était que l'autre, il puisse faire refléter la lumière du soleil dans les yeux des opposants pour qu'ils puissent se cracher. Donc, une Lamborghini dorée. Dorée. Yeah. Donc, tu vois, déjà, le truc, ils sont allés genre, bon, on a une... qu'est-ce qu'on fait d'une Lambo dorée? On va... Ils ont trouvé que ça. Le coup du soleil, quoi. Alors qu'un miroir suffit. Hein. Et en fait, ils l'envoient, puis il y a un piège, blablabla. Dans le camion, il y a une bombe, mais c'est pas n'importe quelle bombe, parce que Fast and Furious, tu vois, c'est pas une bombe avec des fils rouges et bleus qu'il faut défuser, tu vois. C'est une mine sous-marine avec des pics qui roulent. Et donc, tu t'aperçois en regardant Fast and Furious.
On est d'accord que les pics ne vont pas s'ancrer dans le sol.
Pas du tout, ça roule. Ça roule comme, comme une petite balle, tu sais, pour chien, tu vois, molle, tu vois. C'est là que tu t'aperçois que Rome est bien fondée sur cette colline. Ça, c'est sûr, hein, c'est acté.
Mais les ça roule pendant 7 heures, c'est ça?
Mais les 7, voilà, les 7 collines ne sont pas alignées successivement. Tu vois, il y a des hauts et des bas, comme un peu dans ma vie après avoir vu Fast and Furious, tu vois. Et là, le truc ne fait que rouler pendant 20 minutes. Ça roule. Et tu dis, mais c'est pas possible. À un moment donné, il n'y a pas un moment donné où c'est plat, où ça monte. Parce que j'ai été plusieurs fois en forme, ça monte quand même. Ça monte, ça rase quand même, tu vois. Ah ben non, ça descend tout le temps. Et quand même, Vin Diesel, dans sa bonté, il arrive à sauver des gens sur une terrasse de restaurant. Parce que comme par hasard, dans une rue, tu ne sais pas pourquoi elle est là, il y a une station-service, la boule, elle fonce sur la station-service. Et tu le vois, il est dans sa voiture comme ça, et il fait... Il a roulé sur la deuxième vite, t'avais explosé. il te le dit, hein. Parce qu'au cas où t'es con et t'as pas compris, Vin Diesel, il regarde la station service, t'as un plan, et t'as Vin Diesel qui part tout seul, il fait « Roulé sur la station service, t'avais explosé. » Bah ouais, gros, c'est une station service, donc forcément. Et donc, il passe comme ça, il fait un espèce de... Il se met sur deux roues, tu vois, et il protège de l'explosion tous les gens à la terrasse du restaurant parce qu'il passe en synchronicité totale avec la bombe, tu vois. Et il arrive à sauver Rome quand même de l'explosion parce qu'ils arrivent à faire péter la bombe dans un endroit sûr, tu vois. Mais heureusement qu'il avait sa voiture.
Son endroit sûr.
Et sa voiture, elle résiste à tout, à l'explosion, alors que toutes les autres voitures sont niquées, hein, on va pas se mentir. Et puis voilà, il y a le méchant, il est d'un charisme affolant, il est ridicule. Les scènes de poursuite, je t'en parle même pas. Il y a des morts parmi les personnages. Ils meurent, mais comme des cacas. C'est que j'ai vu pendant l'explosion, mais ils meurent comme des cacas. Je veux dire, il y a à un moment donné des gens qui meurent en faisant merci pour tout, Dominique. Et puis ils meurent. Tu fais, mais...
C'est du Marin Cotillard.
Mais tu vois la scène et tu dis, mais tu pouvais juste faire ça. C'est comme Jack dans Titanic. Tu pouvais juste te mettre sur la porte. Et ben là, non. Le mec, il meurt, quoi. Comme un caca. Tu vois, vraiment comme un caca. Et puis même, t'as les traîtres. Tu as des traîtres dans le film, tu vois. Mais tu les vois dès le début du film. Tu vois qu'ils ont une tête de traître. Ils ont casté les mecs. Ils ont le truc. Ils ont fait, on veut un mec qui a une tête de traître. Ben oui, mais on le voit. On voit le mec, tu vois, dans le casting. Tu vois que c'est un allié. Puis dès qu'on l'a vu, j'étais avec un ami, avec Cédric, avec qui on avait fait l'épisode sur les gendarmes. J'étais là, je le regarde. J'ai fait, mais lui, c'est obligé. Ça fait 20 minutes de film. C'est obligé que c'est un traître, lui. Mais je dis, mais non, d'où, déconne pas. Je dis, si, c'est un traître. Écoute.
Comme quoi, voilà. C'est pas évident pour tout le monde.
Non. Bah, il faut bien voir. Mais trois quarts d'heure après, c'était un traître. Ah ah. Tu vois, et tout se conclut en apothéose sur une scène de poursuite monumentale avec un barrage et tout ça, où il a un fils quand même, Dominique Toretto. Et son fils, il fait comme lui, il saute de voiture en voiture, il pilote des caisses. Il se fait capturer par les méchants, puis finalement Dominique, il le récupère en roulant à 200 dans une route de montagne, je crois que c'est en Espagne. Pourquoi? Et puis c'est le monde de Fast and Furious, c'est un monde où en fait tu peux avoir des mecs qui sont capables de venir poser en loose day 14 bombes sur un barrage sans que personne voit quoi que ce soit, sauf que les bombes, c'est, on dirait, il y a marqué Acme dessus, tu vois. C'est un truc, tu vois. Et voilà. Et désolé, hein, je vais spoiler le truc, mais alors, la bombe explose et le barrage commence à couler. Et lui, c'est Dominique Toretto avec la voiture, il récupère son fils et il descend la pente du barrage, comme ça, avec l'eau qui coule derrière. Tu vois, et là, t'es là, tu fais OK. Et le film s'arrête quand même un peu sur ça, tu vois, parce que t'as. Tu sais,
oui,
pas
catastrophe.
Quoi, catastrophe.
C'est
et là,
deux parties, comme deux Mission parties, Impossible.
Voilà. Oui. Sauf que dans Mission Impossible, c'est beaucoup mieux branlé, quoi. Uh-huh. Et là, tu fais ah ouais, donc. Donc les forces de police sont ridicules dans Mission Impossible. Les forces de police, je peux te garantir qu'Ethan Hunt, il en chie, tu vois. Ah ben là, non. Donc c'est mon non-reco du jour, parce que j'adore parler de Fast and Furious, parce que c'est de la merde. Et que ça me fait toujours rire de voir cette espèce de jeu d'acteur de Vin Diesel qui est pourri. Et pour l'anecdote, je crois que je l'avais même déjà dit une fois, mais je le redis, il avait réalisé, paraît-il, un film ou un court-métrage qui a été vu par Spielberg et salué par Spielberg. Et Spielberg lui aurait dit, il faut que tu arrêtes de jouer de la comédie, contente-toi de réaliser des films, tu es bon là-dedans. Et après, il a fait 11 ou 12 Fast and Furious. Donc, voilà. Et je vous épargne les caméos et les gens qui ne sont jamais morts, parce que la saga Fast and Furious, c'est tuer des personnages pour qu'ils revivent tous. Ce qui fait qu'en fait, la mort des personnages que tu vois dans le 10, t'es pas ému. Hein, bon, déjà, parce que c'est de la merde, je n'allais pas être ému. Mais si tu es un tantinet même amateur de ça, t'es pas ému parce qu'en fait, le personnage, il revit. Ils font revivre des personnages 8 ans après. Mais non, ça va. Genre
les rumeurs de ma mort étaient largement exagérées.
L'autre, là, dans le 3, il y a un personnage qui meurt et qui revient à partir du 4. Puis ils ont fait une ellipse temporelle avec les autres.
Est-ce qu'il s'appelle Val ?
Hein ?
Est-ce qu'il s'appelle Val ?
Val ? Pourquoi ?
Oui, parce que Val qui meurt.
Oh, joli. Non, mais...
Voilà, ça, c'était mon esprit les nuls à moi.
Ceci dit, il y a quand même Kurt Russell, Charlize Theron... il y a Hélène Mirren, donc voilà, et puis
la voix off du film Barbie
aussi. Ah oui,
juste pour un coup.
Et il y a des retours d'acteurs qui avaient dit qu'ils reviendraient pas, des retours d'acteurs qu'on pensait morts qui reviennent quand même finalement, faire mais en fait je suis pas mort, enfin voilà, c'est la force
des gros chèques.
Ah, c'est mal branlé au positif. C'est tout est fait pour donner au spectateur ce qu'il veut et du coup ne pas aller à contre-courant du truc. Et c'est très dommage parce que avec l'argent qui est injecté dans ce genre de film, ça aurait été plutôt intéressant d'avoir un film qui tient la route. Voilà. C'était ma Marocco merdique et nul du coup du jour. Passons du coup à vous les amis. Qui se lance, Eric.
Allez,
Boris.
Je me lance. Ah,
Eric.
Je te rattrape.
Moi, c'est un comics qui est sorti en 2 volumes chez Urban Comics. Le nom de ce comics, c'est The Nice House on the Lake. La jolie maison sur le lac, en beau français. C'est un comics écrit par James Tynion-Ford et dessiné par Alvaro Martinez Bueno. Comme Kinder, Bueno.
Un peu comme le gars de la Nautil dans l'épisode précédent.
En fait, c'est une histoire d'horreur, une série finie en deux volumes. Ceci étant dit, il y a une intégrale en noir et blanc qui doit sortir aux alentours de Noël, enfin de la rentrée, par là. Parfait cadeau pour les fêtes, quoi. C'est une dizaine de personnes, mais tous très différents. Il y a genre un médecin, un pianiste, un machin, etc.
Ouais.
Qui vont passer quelques jours dans une maison. On se demande un peu comment ils se connaissent. Et en fait, on découvre très vite que le point commun de toutes ces personnes, ouais, c'est qu'ils ont un très bon pote qui s'appelle Walter. Et ce Walter, c'est lui qui les a invités dans cette baraque. Mais, évidemment, c'est la baraque est magnifique, super moderne, sur un lac, machin, etc.
Ouais.
Et évidemment, ça ne va pas exactement se passer...
Comme prévu.
J'ai pas trop envie de spoiler
le synopsis
vraiment plus loin que ça.
Ouais.
Parce que c'est très bien écrit, c'est très bien mené. Et en fait, à la fin du premier épisode, il y a une révélation qui fait que.
Ouais.
Que ça va déclencher quelque chose, des nouvelles interactions entre tous les personnages, etc. etc. Mais vraiment, les réactions de chaque personnage,
ouais,
le huis clos fonctionne super bien.
Donc quelque chose qui pourrait être adapté en film, en fait, peut-être.
Ça pourrait.
Mais bien adapté, par contre.
Oui, voilà. C'est un huis clos qui fait monter la tension tout le long des... Je crois que c'était une série en 12 épisodes à l'époque. Enfin, en single aux États-Unis. Mais ce qui est surtout magnifique, ce sont les dessins de Alvaro Martinez.
Ouais.
Bueno, pardon, c'est Bueno son nom, j'imagine. C'est une claque visuelle. J'essaierai de vous montrer tout à l'heure hors enregistrement,
hors antenne,
à quoi ça ressemble. Mais j'avais un peu peur avec le scénariste parce qu'à l'époque, quand j'ai commencé par prendre ce comics, je ne connaissais que son boulot sur Batman.
Ouais.
Et son boulot sur Batman, ça faisait un peu en mode mouais.
Mais.
Voilà. Depuis, j'ai rattrapé ces titres plutôt à tendance horrifique, comme.
Ouais.
Comment il s'appelle ce comics ? Something is Killing the Children, qui est une bonne série horrifique aussi,
ouais,
mais plus au long cours, quoi. Et il y a une autre série que j'aime bien qui est plus difficile d'accès, Et pas vraiment dans l'horreur, mais plutôt dans le thriller complotiste.
Ouais.
C'est The Department of Truth. Donc, Something is Killing the Children, en gros, c'est une sorte de caste qui vont chasser des monstres dans l'imaginaire des gens. Voilà, ça c'est bien, mais difficile d'en dire plus. The Department of Truth, c'est genre le pitch, c'est que c'est un mec se fait enrôler pour bosser pour une partie d'agents secrets qui.
Ouais.
De sociétés secrètes ou d'agents secrets, je ne sais plus exactement, qui travaille à vérifier, former et déformer la vérité. Parce que plus de gens croient à quelque chose, plus ça devient la vérité aussi. Enfin, il y a tout une critique sur le complotisme et un peu sur le côté trumpiste. Très bien aussi. Donc voilà, sur ces trois titres, James Tannenfort, on peut y aller un peu les yeux fermés. Enfin, les yeux ouverts sur les dessins. Les dessins sont pas mal en général. Mais, et d'ailleurs, il a été nommé au Festival BD d'Angoulême justement pour, je crois que c'était Something is Killing the Children, je crois, ou Department of Truth, c'est l'un des deux, je crois. Et il a reçu 4 prix Eisner à l'époque aussi aux États-Unis à la San Diego Comic Con.
D'accord.
C'est leur Emmy Awards aussi à eux. Quoi.
Ouais.
Voilà, donc franchement, Nice House on the Lake, je vous spoil pas plus, allez voir, c'est très 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 bon. C'est très bon.
On peut le voir sur, on peut le retrouver sur quoi en fait?
C'est un comics qui est édité par Urban Comics. En deux volumes, et il y aura une intégrale en noir et blanc qui va apparaître
dans les librairies.
Dans toutes les librairies. Physique de préférence ou en ligne, si vraiment vous n'avez pas le choix.
Ok. Et toi alors, mon Brice?
Du coup, moi, je suis une flemmasse, donc je pense que je l'avais déjà conseillé ou quelqu'un de vous l'avait déjà conseillé. C'était Good Omens. Il y a la saison 2 qui est sortie.
Je crois que c'était toi qui en a parlé.
C'était peut-être moi. Mais la saison 2 vient de sortir. J'ai regardé le premier épisode. Ça a l'air aussi bien que la saison 1. Donc je vous conseille, si vous ne l'avez pas encore vu, de regarder la saison 1 et d'enchaîner avec la saison 2.
Il y a un des acteurs qui fait toujours penser à Simon
Pegg. Ah oui, Michael.
Il a une tête des fois de loin. J'ai l'impression que c'est Simon Pegg.
Putain, comment il s'appelait? C'est Michael Sheen, non? C'est pas...
Michael Sheen.
C'était bien lui. Ça doit être lui, je pense. Donc, du coup, c'est l'ange. Lui, c'est l'ange.
C'est l'ange.
Et David Tennant, c'est
le démon. Tu m'en avais parlé, ça a l'air sympa.
Et franchement, c'est basé sur un bouquin de Terry Pratchett à la base.
D'accord.
Du moins, la première saison, la deuxième, je ne sais pas. J'imagine que c'est un peu dans la suite. Et c'est vraiment bien délirant, très très fun. C'est court, c'est 6 épisodes, donc ça avance rapidement.
C'est sur Amazon Prime ?
Ouais, c'est sur Amazon Prime, tout à fait.
D'accord, ok.
Et il commence potentiellement à parler d'une peut-être une saison 3 quand même.
Alors
que déjà la saison 2 n'était pas gagnée. Good Omens, c'est un roman de Neil Gaiman et Terry Pratchett ensemble, et qui la saison 1 adaptée que ce roman.
C'est 6 épisodes en fait, tout comme ça.
Première saison 6 épisodes, deuxième saison 6 épisodes.
Je sais pas vous, moi j'aime bien en fait quand les séries n'ont pas beaucoup d'épisodes. Déjà, tu vois, le calvaire de Secret Invasion a duré moins longtemps.
Et ça a duré que 6 épisodes.
Mais non, c'est bien parce que j'ai beaucoup de mal maintenant, mais les séries avec 24 épisodes.
Ça dépend en fait. S'il n'y a pas trop de lenteur, ça va.
Si c'est du format 20 minutes, ça me va. Mais si c'est des formats 45-50 minutes.
Alors ça dépend. En fait, le truc c'est que maintenant les séries se sont raccourcies. Je regardais un peu. Des vieilles séries, les saisons faisaient 30 épisodes.
Ouais.
Ça descend, dans les années 90, c'était plutôt 22-24.
Ouais, c'est ça.
Et là, maintenant, on est plutôt descendu, même pour les séries network, à 17-18 épisodes. Des séries comme The Good Doctor, The Rookie, des trucs un peu de network. Les choses qui sont faites pour la télé, grosso modo, elles sont faites pour diffuser en hebdomadaire. Tu enlèves l'été, tu enlèves les événements sportifs. Thanksgiving et 2-3 conneries de ce genre. Il faut bien qu'ils remplissent leur grille. D'ailleurs, ils vont avoir sans doute un peu de mal, sans doute plus de mal que les plateformes de streaming contre lesquelles se battent la guilde des acteurs et la guilde des scénaristes. Parce qu'en réalité, eux, ils sont obligés d'alimenter leur
vie. Oui.
Là, ils sont en train de travailler à récupérer des séries qui étaient faites pour le streaming. Pour les diffuser, ABC, je crois qu'il va diffuser la première fois, ou va diffuser Miss Marvel sur ABC, quoi. Enfin,
après,
c'est le groupe Disney aussi.
En France, je crois qu'il y a des séries Netflix qui ont été diffusées à la télé.
Il me semble aussi,
je crois que la Casa del Papel ou un truc comme
tout
ça.
Tout à fait.
Il faut que je termine d'ailleurs, la Casa del Papel. Mais,
là-bas, ils vont être obligés de le faire. Donc finalement, avoir des saisons de 10, 6, 13 épisodes, c'est quand même plus facilité pour les plateformes de streaming plutôt que pour les chaînes de télé classiques. Les chaînes de télé classiques, elles ont besoin de alors peut-être pas à 24, peut-être ils préfèrent maintenant deux projets de 13 épisodes pour faire mais il faut bien qu'ils alimentent leur grille, et mécaniquement la télé est un principe de rendez-vous régulier. Au bout de 6 épisodes, la saison 2, ils viendront jamais parce que 6 épisodes, ils auront déjà oublié la série 10 000 fois. La télé, c'est pas la même dynamique.
Oui, c'est vrai, tu as raison. Non, en parlant de série, de mini-roco, j'ai entamé la nouvelle saison de Jack Ryan et c'est pas trop mal. J'attends quand même la fin, j'ai encore 2 épisodes à voir, quoi, mais ça reste dans l'esprit. Apparemment, c'est bien parti pour se conclure comme il faut. Donc, bonne petite série.
C'est dernière saison, ça.
Dernière saison, pardon, ouais. Dernière saison avec John Krasinski, alias Jim, de The Office.
Yeah.
Et bien sûr, ces bonnes paroles, je pense qu'il est temps de raccrocher les gants, les amis.
C'est l'été, les gants, pas trop, quoi.
Parce que
les gants, c'est pas nous non plus.
Parce que c'est pas ma guerre. Donc, voilà, hop, déclenche pour le générique. Bonsoir. Donc, écoutez, on se retrouve sur les bières narratives.com, excusez-moi, ainsi que sur tous les réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver Eric sur www.lesartsnarratifs.com, ainsi que sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram.
Et même Mastodon,
c'est vrai. Moi, vous pouvez me retrouver sur thebeerlantern.com, Facebook, Twitter, Instagram. Également, pensez à notre page Tipeee. Brice, si vous voulez parler avec le Brissounet, c'est Grand Tozer sur Instagram et Twitter.
Il a besoin d'orthophoniste
en ce moment. Et puis voilà, et puis au moment où vous écouterez Céline, on aura sans doute peut-être lancé Beer Lantern Brewing, on espère. Donc on est en travaux. Et je pense qu'on vous en parlera dans l'épisode d'octobre. On aura peut-être commencé à avoir des trucs un peu fun. Donc on vous dit à très bientôt. Rendez-vous au mois d'octobre avec un nouvel épisode. Salut!
À bientôt!
Allez, au revoir!
On a frôlé la catastrophe. Négatif, je suis une mythe en pilote vert.
Hé, moi aussi, je te pisse au cul!
C'était très mauvais, voilà, exactement.